Bonjour, bonne journée, bonne fin d'après-midi et surtout bonsoir, c'est Marius qui vous parle. Nous sommes le samedi 21 novembre 2015 et nous revoilà de nouveau réunis pour l'enregistrement du 19e volet de l'Entrepode. Alors, encore un Entrepode hors les murs et pour la première fois en direct du festival fantastique de Rouen. Aujourd'hui, autour du cimetière. C'est le zombie type, il a déjà perdu son bras droit, il est décédé en 2010 d'où son état avancé de putréfaction. Ses petits congénères lui ont presque bouffé la moitié du visage. Il est effrayant et puant à souhait, c'est nommé Mister Lulu.
Je suis en merde.
Cette chroniqueuse est assez déroutante. Il faut la voir tourner sa tête sur 360 degrés sans verser la moindre petite larme. Lors de ses lévitations courantes, elle est capable de parler une langue encore inconnue et bien à elle. Donnez-lui un crucifix et elle fera passer Tabata Cash et Brigitte Lahaie pour des enfants de cœur. Je ne vous en dis pas plus, j'ai nommé Didouille.
On te reconnaît bien là.
C'est moi, tout coché.
C'est un sorcier lui tout seul, le front rond, les lunettes visées sur le nez. Il a été le sosie officiel d'Harry Potter pendant 7 ans, avant de tomber dans la décadence totale, drogue, alcool et autres substances illicites. Nous essayons de le remettre sur pied, mais entouré de Starlet, Didouille et moi-même, c'est bien difficile. J'ai nommé Arnaud, il sera présent demain. Parce qu'il n'est pas là.
C'est pour ça. C'est...
Ah ouais.
Il est ici, il rôde. Il nage en eau trouble en quête d'une proie. Toujours silencieux, il se rapproche lentement, doucement. Sur le qui-vive, quand vous vous rendrez compte de sa présence, il sera déjà trop tard. Et toujours prêt à déconner et de jouer avec vous, vous ne pourrez plus vous passer de lui. Je nommé Bibi Christophe.
Ouais, c'est moi.
Il a la police aussi.
Il revient chaque nuit durant votre sommeil, vous ne pourrez lui échapper. Armé de son quiz démoniaque, il vous posera toutes les nuits la même question. T'aimerais bien être un hobbit, hein? Oh oui, t'aimerais bien être un hobbit. J'ai nommé Freddy.
Salut.
La référence. Ah, j'aimais bien.
C'était facile en même temps.
Et enfin, nous pourrions lui donner le bon Dieu sans confession, le regard jovial, les yeux rieurs, il a tout du genre idéal. Mais pour certaines personnes, il n'en est rien. Adepte de la musique métal qu'il pratique avec ses acolytes de Wisdom dans les sous-sols d'une salle de spectacle, il consomme également de la bière et attention, tenez-vous bien, quelquefois du vin. Alors, je récapitule.
Tenez-vous bien. Tenez-vous mieux, s'il vous plaît.
Je récapitule de la musique, salle de spectacle, alcool et attention, je suis quasiment sûr qu'il a déjà posé ses mains avant le mariage sur Starlet.
Quoi?
L'arfait. Je suis sûr qu'il a posé ses mains sur Starlet avant le mariage. Tout ça pour dire aux ravagés du turban et de la ceinture explosive que nous vivons en France, que nous vivons dans le péché et que surtout je les emmerde bien profondément. Nico, c'est à toi.
Bah écoute, un petit message personnel.
Ah oui, ça n'engage que moi, vous inquiétez pas.
De toute façon, on s'en fout.
Il faudra qu'on se cause juste après l'émission.
Oui, mais non, mais c'était pas avant. Pourquoi on t'avait dit de pas le dire pour Didouille?
Tu vois, on peut pas lui faire confiance.
Après le mariage, de toute façon.
Oui, Didouille, c'était après mon mariage.
De toute façon, il a forcément touché Didouille aussi.
Émotionnellement, bien sûr.
Oh, c'est gentil. Eh ben,
bon, t'es bien celui-là.
Non, oui, c'était pas mal, c'était pas mal. Disons que je pensais que tu te planterais. Mais
en fait, tout le monde est convaincu que tu te planterais.
Et ben, pour un coup, j'ai pas sué.
Et t'as
j'ai pas sué des bras.
T'as présenté Starlet ou quoi? J'ai pas suivi.
Ben non, mais parce qu'elle est pas là.
Elle sera pas là demain.
Elle sera pas là demain non plus.
Feignasse. Ah, non, sinon, l'autre feignasse, oui, j'aurais fait quelque chose de bien méchant sur elle aussi.
Et donc si j'ai tout compris, je suis un requin.
Non, t'es un Bibi Christophe.
Hein. Bibi Christophe.
Bibi Fock.
Bibi Fock, ça vous parle tous.
Fock.
Hein.
Oui,
Bibi Fock.
Bibi Fock.
Et bien, donc, nous voici donc réunis quasiment au complet aujourd'hui. On est six autour de la table. En plein cœur du festival, enfin de la convention du festival du film fantastique, donc mais qui commence à se remplir en ce début d'après-midi.
Ouais, on espère que
vous entendrez bien comment ça se passe. Donc on a pris quelques photos, quelques vidéos à droite à gauche, notamment une rigolote de Christophe qui s'exerce à l'Oculus Rift et à la réalité augmentée, réalité virtuelle, c'était rigolo.
Ah oui, ah oui.
Et il faut peut-être raconter à nos auditeurs, le contexte. Là, on est entouré de stands avec des gens qui
c'est énorme.
Qui présentent des vêtements improbables. Enfin moi je vois dans ma ligne de mire Ludo plus un truc en cuir là,
des fesses avec... En fait, on devrait faire une photo des fesses avec le cuir là.
On a aussi des stands de BD, on a des gens qui font des trucs avec des pinces, je sais pas ce que c'est.
Des pinces? Mais non, ce ne sont pas des pinces, ce sont des pinceaux.
Qu'est-ce qu'il est con.
Et ce sont des lampes hein, juste
donc
au-dessus.
Donc là c'est un stand de peinture de figurines.
C'est un stand de peinture sur soie miniature en fait, tu fais des petits fous miniature.
Donc il y a tout, il y a du steampunk, il y a du la pyrogravure qu'on a vu tout à l'heure, on a des
très belles choses hein.
Le Brainscape qui est un espèce de jeu de rôle, énigme, etc. Enfin, il y a beaucoup de choses ici et ça commence à bien se remplir. Donc, vous entendez du bruit derrière nous.
On voit
et
même
on a un super stand.
On
encore
voit
une fois.
Même,
ouais,
même.
On a vraiment, on est super bien installé.
Merci vraiment l'organisation. Table. On a plein de place.
Pour un coup, on a personne.
Puis derrière nous, il y a même génial. Quelqu'un qu'on connaît.
Eh oui, mais on va pas le dire trop fort sinon il va venir au micro.
Voilà. Non, regarde, il est occupé.
Steve Baker, Steve Baker non, est dans le coin là-bas.
Steve Baker, faut pas prononcer son nom sinon il arrive.
Si tu dis Steve Baker trois fois, devant le miroir, il est derrière.
Donc la convention se déroule à la L'Étoile de Rouen, donc place de la Basse-Vieille Tour. Donc globalement, la convention s'organise sur 800 mètres carrés quand même. C'est pas toute la L'Étoile, mais on a déjà un petit stand pas mal.
À peine plus petit que chez moi.
Oui. Et donc il y a des concours de costumes, il y a des invités, des auteurs. On essaiera d'avoir des invités à notre micro, notamment dans le cadre aussi du festival, hein, des réalisateurs, ouais, peut-être des producteurs, on verra comment tout ça s'organise, peut-être des organisateurs d'ici.
Peut-être et des organisateurs, producteurs, réalisateurs.
Et peut-être.
On ne sait pas.
Et demain, il y aura également des comédiens de doublage pour des séries à succès, comme Game of Thrones ou Walking Dead. Cool, donc ça sera cool, toi tu ne seras pas là, mais.
Mais ouais, non, mais c'est vrai que ça me fait vraiment chier là. Parce que
non, mais on écoutera.
Vous écouterez, voilà.
On va peut-être avoir quelques personnes de l'organisation aussi. Voilà. Dans l'après-midi.
Donc on va voir comment tout ça s'organise. Et puis bah voilà quoi. Globalement le festival, il y a des courts métrages. Ludo, toi tu as eu l'occasion d'y participer à la fois, je dirais en off et aussi en tant que spectateur, un peu dans les coulisses et puis aussi sur les.
Oui, c'était rigolo.
Tu nous raconteras ça un petit peu peut-être tout à l'heure.
En off et en on, donc.
Et donc la première soirée s'est déroulée hier soir, des courts métrages, et la deuxième soirée se déroule ce soir avec les lauréats qui seront.
Ouais, il est en train de peindre les trophées là tout de suite en ce moment, Alex.
D'accord.
Pour les mettre ce soir, il faut que la peinture reste sèche. Véridique.
Ce soir, c'est la remise de prix.
Oui, oui.
D'accord.
Donc voilà. Et à la fin de chaque soirée de projection, il y a cette année Alien qui s'est déroulé hier merde, et ouais. Aliens ce soir. Voilà.
Donc le retour,
voilà,
le retour,
un ouais. petit peu pour les grandes lignes de ce festival qui en a sa 7e édition et je crois que c'est la 2e de la convention à laquelle on participe.
Oui. Yes, monsieur.
Donc écoutez, c'est quand même. Encore merci pour l'accueil et on passe pour l'instant un bon moment ici. Alors donc, chacun de mes collègues a pioché un mot mystère qu'il devra placer. Donc j'ai pas fait attention.
Vous en foutez quand je fais ta personne va me dire t'es mis de quoi?
Timide quoi?
Les Klingons.
Ah les Klingons, tu étais les Klingons.
Mon mot mystère.
Ouais, enfin,
Star Trek.
On l'avait pas vu venir.
Ouais, bon, non, attends, c'était préformaté ton truc, hein, franchement.
Mais j'ai toujours.
Ah, il a dit préformaté. C'est ça qu'il avait.
Ah, Damned, je
merci.
Suis fait.
C'est bien, c'est fort à chaque fois comme vous l'avez.
Mais je remporte pas un point moi si je dis que j'ai découvert qu'il l'a dit.
Non, c'est lui qui doit le placer.
Bah, il l'a placé, mais j'ai découvert qu'il l'a
moi, je l'ai placé, ça fait quoi?
Bah oui. Tu l'as placé, tu as un point dans le quiz de Freddy que Freddy. Eh
hey, Freddy, t'as fait un quiz.
Pas aujourd'hui.
Et voilà.
T'as pas fait quiz sur le film fantastique?
Non,
tu veux
là,
pas, veux pas être un hobbit, tu veux pas être un hobbit, tu veux pas être un hobbit.
C'est pas juste.
En même temps, je suis assez content parce que.
C'est pas juste.
C'est Ludo qui aurait remporté tous les points.
C'est pas juste, je voulais. Et j'ai fait le quiz.
Je me suis fait cette réflexion, figure-toi.
C'est dégueulasse.
Tu as bien fait.
C'est dégueulasse parce que je m'attendais pour me refaire.
Trop faire, tu es en train déjà de nous mettre une.
L'autre, il est premier, il veut se refaire.
Oh, ça va, mais c'est peut-être jaloux en fait.
Enfin, moi, si je gagne que des points quand je place mes mots.
ça sera toujours mieux que l'année dernière.
Ça fera un point par épisode, c'est pas mal.
Oui, c'est déjà pas mal.
Donc, nous allons commencer cet enregistrement, cet épisode avec l'arrivée d'un de nos premiers invités,
frère,
puisque c'est toi qui nous l'a fait venir, c'est Niklaus, que je dise pas de bêtises.
Ouais, Niklaus.
Alors excusez-moi, je reprends mon micro, un réalisateur d'un court métrage qui s'appelle L'automne de Zao, et il s'agit de Niklaus Roche Kresse qui va venir nous parler de son film.
Merci, nous allons donc l'accueillir.
D'accord.
Quelle ambiance.
C'est génial.
Et bien c'est parti.
Et voilà, c'est parti. On accueille donc à notre table Niklaus Roche-Kresse. C'est bien ça, Niklaus ?
Parfait.
Voilà, parfait. Et ben pourquoi on accueille Niklaus au Festival du Film Fantastique ?
Qu'est-ce à dire ?
Pour la simple et bonne raison, c'est que Niklaus est venu présenter son court-métrage lors de la première soirée de présentation des courts-métrages hier soir à l'OMIA. Court-métrage qui s'intitule « L'automne de Zao ». Que nous avons tous
magnifique.
Le privilège, l'honneur et la joie de voir. Alors hier sur un bel et grand écran.
Nous sur petit écran, mais
le plaisir n'en était pas moindre.
Exactement.
Voilà. Et donc, on est très très content de t'avoir avec nous, parce que ça va être l'occasion un petit peu de discuter autour de ce court métrage. Alors, est-ce que tu peux nous présenter en quelques mots, Niklaus, sans trop déflorer le sujet, mais en donnant vraiment très très envie.
Le pitch.
Wow, go.
Alors le pitch, en fait, c'est l'histoire d'un petit garçon qui est plutôt un geek et qui aime jouer avec des créatures, qui aime les contes pour enfants, qui intègre des créatures et qui hélas est souffrant d'une maladie incurable, donc que l'on ne nomme pas dans le film, mais que l'on devine être une sorte de cancer. Et cet enfant, donc sa mère, l'emmène au bord d'un lac pour essayer de profiter de ses derniers jours. Et on comprend qu'elle a une relation avec son fils qui est plutôt distante. On comprend que c'est sa grand-mère qui s'est occupée de Zao. Et donc elle essaie de recréer un lien, elle essaie de rattraper en fait le temps perdu qui ne se rattrapera évidemment jamais. Et en fait, à ce moment-là, une petite fille qui sort de nulle part l'entraîne dans la forêt et lui fait découvrir la vie au moment où lui est en train de perdre la sienne. Et donc voilà, cette petite fille l'emmène vers la vie, c'est un hymne à la vie et en même temps avec des choses très poétiques et que j'espérais très, très émouvantes et très touchantes en mettant vraiment l'accent sur les émotions.
Ah, c'était réussi.
Et voilà.
Ouais, c'est vrai qu'on a eu la chance, t'as eu la gentillesse de nous permettre de le regarder avant ta venue, et c'est vrai qu'on l'a tous regardé là autour de la table. Enfin, peut-être pas Didouille qui a pas
non,
eu
moi
la
je
possibilité.
Suis,
mais...
totalement vierge.
Finis ta phrase.
De toute image fantastique, voilà, ou de court métrage de cette convention.
Là, pour l'avoir vu, ce que ça m'a inspiré tout de suite, alors sans ce que je disais avec Ludo tout à l'heure, sans galvauder le terme, mais c'est un côté très Miyazaki dans l'esprit, que ça soit la musique.
L'esthétisme,
les cadrages, les plans caméra, enfin on retrouve vraiment je sais pas, c'est quelque chose qui est voulu, si c'est alors, ou si peut-être j'ai fantasmé sur un truc qui n'existait pas du tout. Mais...
alors non, évidemment, enfin comment dire, c'était plutôt une source d'inspiration que évidemment il ne s'agit pas de copier le style de Miyazaki, etc. Il ne s'agit pas d'y retrouver des références. C'était plus pour moi ce qui m'a évidemment un peu bercé, comme mon voisin Totoro de Miyazaki, qui m'avait beaucoup marqué. J'avais regardé quelques films, mais pas trop, parce que je ne voulais pas rentrer dans la copie de ce qui existait déjà. Je voulais vraiment trouver en moi mes propres sources d'inspiration. Comme dit beaucoup Mike Myers, en fait, que j'aime beaucoup par ailleurs, parce que c'est vraiment un théoricien génial, mais au-delà d'être un comique assez incroyable, mais qui dit souvent que quand on est dans un processus de création, on ne peut pas être en même temps dans la consommation. Et donc, qui se coupe en fait de tout ce qui existe quand il est en train d'écrire ou de créer. Donc là, moi, c'était aussi un peu pareil. J'ai juste regardé en fait les films de créatures pour voir, en termes d'effets spéciaux, presque plus une sorte de benchmark en fait créatif sur la créature, sachant que justement, je ne voulais pas aller vers ça. Donc c'était plutôt une sorte de boussole qui indiquait le sud pour moi. Et du coup, Miyazaki, bon, forcément, on vient charger de ce qu'on aime. Miyazaki, Terrence Malick. Pour la phase un peu, pour toute la dimension un peu existentialiste, et puis aussi parce que quelque part, bon, alors j'ai aucune prétention évidemment à atteindre ces maîtres qui sont vraiment formidables et fabuleux, mais bon, voilà, je pense qu'il y avait aussi une même préoccupation chez eux comme chez moi en fait. J'ai aussi un parcours de philosophie comme Terrence Malick, bon, sauf que lui il est professeur au MIT, mais voilà, donc, mais l'idée était là, l'idée était vraiment d'aller vers une forme d'existentialisme, d'enfoncer des clous sur certains concepts comme le design, donc vraiment l'environnement comme condition d'existence de l'être, et que du coup la forêt devienne un personnage.
Ah, justement à ce propos, ce que je voulais dire, c'est que... Pardon, excuse-moi.
Pour Freddy. Non, mais puisqu'on parlait référence, moi j'ai pensé à un autre cinéaste, enfin ça m'a vraiment sauté aux yeux, c'est Kim Ki-duk, le metteur en scène sud-coréen.
Oui, je connais bien.
Si tu connais bien. Ouais. Et notamment le film Printemps. Non,
mais justement, j'allais le citer.
Parce que il y a le lac, parce qu'il y a les arbres, parce qu'il y a ce décor qui
vraiment, les couleurs, quand on voit les couleurs.
C'est ouais, aussi non, c'est... une référence.
Oui, tout... alors en fait, évidemment, oui, ce film Printemps, été, automne, hiver et printemps, c'est un film que j'ai adoré, mais qui en fait n'est pas rentré dans, on va dire, dans mon benchmark pour l'automne de Zao, mais c'est évidemment un film qui m'avait marqué quand je l'avais vu il y a déjà presque 8 ans. À l'époque, enfin, je l'ai pas vu à sa sortie, hein, je l'avais vu en DVD, mais donc je l'ai vu il y a 8 ans, je m'en souviens très très bien de l'avoir vu. C'est un film qui m'a beaucoup marqué parce que justement il y a cette temporalité qu'ont beaucoup les films asiatiques et mélanger la nature. En fait, la nature et l'indice, c'est le marqueur du temps. Donc on voit la nature évoluer et c'est le marqueur du temps qui passe. Et ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup aussi. Et notamment, voilà, c'est aussi une des choses qui fait que. Voilà, certaines personnes ont trouvé justement que l'automne de Zao faisait beaucoup de références au cinéma asiatique, coréen ou japonais en particulier, notamment justement au film que nous avons déjà cité à l'instant. Et peut-être que l'inspiration, c'est bon, moi je suis aussi bouddhiste, donc peut-être que j'y retrouve forcément des traits communs. En fait, c'est plus une sorte de grammaire commune, en fait, je pense, que il n'y a pas du tout l'idée de les copier ou de m'en inspirer, c'est juste qu'en fait nous avons la même grammaire.
Oui, oui. De toute façon, ce qu'on retrouve en plus, moi, ce qui m'a énormément marqué, enfin en tout cas envoûté, c'est vraiment, tu en as parlé un petit peu tout à l'heure, c'est notamment la forêt, la lumière, la forêt, mm-hmm. les plans. Il y a des plans qui sont
les plans sont magnifiques, simplement voilà, enfin, ouais, remarquables.
Magnifique, enfin je veux dire. Et alors pour le coup, je trouve que si c'était ce qui était recherché, le résultat est atteint à 3000%, puisqu'en fait on est complètement emporté par cet aspect justement très contemplatif
et la très forêt, peu de dialogue, oui.
très peu de dialogue, et la forêt en plus est très présente, très très apaisante en même temps. Il y a cet aspect, enfin du coup ça
peut-être vivante en même
oui,
temps
oui
aussi.
C'est vraiment un côté
la mère de l'humanité,
non mais un côté qui m'a vraiment séduit. Christophe, tu voulais
oui c'est pour aller toujours dans ton sens, c'est concernant la musique. J'ai pas eu le temps de voir sur le générique si elle avait été composée ou alors si tu avais fait appel à des artistes, mais en tout cas elle se marie très bien, bon, forcément, avec ce que dit Ludo, c'est-à-dire l'effet contemplatif.
Alors en fait, alors déjà deux choses. Donc déjà pour parler de la photo, la photographie est signée par Fabien Drujon, avec qui je m'entends vraiment parfaitement bien, et ça a été une entente vraiment parfaite sur le plateau. Pour moi, c'est quelque chose de très très déterminant pour moi. Parce que c'est fondamental en fait l'image, et donc je travaille aussi beaucoup en amont avec un storyboard que moi-même je crois à la base, enfin vraiment en termes de cadre, et je me suis rendu plus de 15 fois en fait sur les lacs, sachant que donc dans le film en fait en réalité nous n'avons pas qu'un seul lac mais trois en réalité.
Pour
trouver la configuration idéale en fait qui n'existait pas à l'état naturel, donc il a fallu avoir trois lacs pour avoir un lac avec une maison, un lac tout seul sans maison, et ainsi de suite, puis certains lacs avec plutôt des fougères qu'avec des arbres, et ainsi de suite. Donc donc on a tourné sur trois lacs différents dans un triangle de 150 km, et donc voilà, donc avec une grosse préparation en amont sur tout ce qui était storyboard. Et donc avec des valeurs de cadre que j'avais déjà définies dans une sorte de pré-storyboard, parce que derrière il a été on l'a retravaillé un peu plus avec des graphistes. Mais voilà, donc ça c'est une première chose, avec un très très bon travail de Fabien Drujon, qui a été d'ailleurs nominé plusieurs fois dans des festivals, trois ou quatre fois. On a perdu le fil maintenant, parce qu'on a eu à ce jour, en 7 mois, on a eu plus de 33 sélections officielles en festivals internationaux, et plus de dizaines de prix. Donc notamment beaucoup dans les pays anglo-saxons.
Un peu partout, hein, aux États-Unis.
Oui, beaucoup aux États-Unis.
Tu as fait le Chinese Theater à Los Angeles.
Alors voilà, on a eu déjà deux sélections officielles dans deux festivals importants aux États-Unis à Los Angeles, donc et qui ont été qui avaient leur siège entre guillemets au Chinese Theater, qui est pour les gens qui ne le savent pas, qui est le cinéma des Oscars en fait, et qui est donc situé vraiment dans le West Hollywood, où il y a le Walk of Fame, etc. Donc c'est magique et c'est incroyable, et une qualité de salle incroyable.
Je disais, la projection de ton film à cet endroit-là, ça reste un moment fort.
Exactement, mais franchement, ça a été la première fois que je l'ai revu, ce film, en fait. C'était là-bas, parce qu'en fait, bon, c'est vrai, c'est là, enfin, il faut le dire, hein, la culture du cinéma aux États-Unis, c'est vraiment hallucinant. La qualité du son est hallucinant. Enfin, vraiment, à côté, ici, quand on est dans une salle de cinéma, on a l'impression d'écouter le son en MP3. Et alors que là-bas, ça déboîte tout, quoi. Ça déboîte et je me suis laissé bercer à nouveau par mon film, comme si je l'avais revu pour la première fois. Alors donc voilà, donc ça c'est pour la photo,
pour la musique.
Donc elle est signée donc de Laurent Couson, qui est un ami compositeur de musique, qui a beaucoup travaillé avec, enfin qui a fait certaines musiques pour EuropaCorp, donc la société de Luc Besson, et pour notamment aussi Claude Lelouch.
Oui, d'accord.
Donc voilà, et c'est aussi un chef d'orchestre. C'est quelqu'un qui est très brillant, qui est incroyable, dont j'adore le travail. Et sachant que au préalable, ce que je voulais, c'est que bon, alors évidemment, c'est quelqu'un de très décrié, mais personnellement, je suis un énorme fan de Hans Zimmer, même si ça va hurler, ça va faire hurler certaines personnes.
J'aime beaucoup Hans Zimmer.
Voilà. Et bon, il y a des gens qui ont des mauvaises langues pour dire
que c'est pas de la musique, c'est pas. C'est
voilà, ou qu'ils sous-traitent derrière. Voilà, et qu'il y a des gens qui font le travail derrière. Mais peu importe, en fait, l'important, c'est l'intention créative qui drive en fait le projet et qui drive en fait tout le travail chez nous de notre côté. Et de dire, bah voilà, peu importe en fait comment il réalisait la musique en amont, par qui, comment, de quoi on s'inspire. L'important, c'est nous d'avoir un driver qui nous guide vers notre objectif à nous. Donc j'ai beaucoup travaillé en fait, déjà tous les repérages, quand je les ai faits, je me faisais 15 fois la route dans les Vosges et en Meurthe-et-Moselle, en écoutant en boucle la musique de The Thin Red Line, donc le film à la fois de Terrence Malick et avec la musique de Hans Zimmer. Et donc voilà, et donc j'écoutais ça en boucle et les premiers montages du film, on les a fait avec ces musiques-là en fait. Et donc l'ours en fait du film, on l'a fait avec ces musiques-là, sachant qu'après j'ai donc du coup demandé à Laurent Couson de mettre ensuite sa musique à lui dessus. Et voilà, mais voilà, dans l'absolu, si j'avais pu le faire avec Hans Zimmer, on l'aurait fait avec Hans Zimmer. mais en même temps, voilà, c'est formidable. La musique de Laurent Couson est magnifique.
La musique est
franchement,
elle est récompensée partout. Il a déjà eu aussi des prix à Los Angeles pour la musique de Zao. Donc, je suis très très heureux d'avoir travaillé avec des gens comme Fabien Drujon pour la direction photo et Laurent Couson pour la musique. Et voilà, sachant qu'on a eu un tournage quand même très difficile avec deux enfants, on doutait que c'était pas con.
C'était justement ce que je voulais que tu nous racontes un petit peu la genèse un peu du projet, de l'idée de départ, ce qui t'a motivé pour partir dans cette aventure-là. Et puis, effectivement, concrètement, comment ça s'est déroulé, le tournage, les enfants, le casting, parce que tu as, bon, il y a les enfants, et puis tu as aussi quand même, tu as également une actrice qui joue, une très belle actrice, et très bonne actrice d'ailleurs, et comment tout ça s'est agencé, et au niveau du budget, si tu peux nous raconter un peu.
S'il y a 15 questions dans une question, c'est
toujours,
normal.
Il y a toujours 15 questions avec moi.
Ah, mais c'est surtout que du coup, 15 questions font faire que je vais vous faire une réponse qui va durer un peu longtemps. Alors en fait, bon, alors la genèse, elle est longue en fait, mais elle était déjà sous le signe malheureusement de la mort, puisqu'en fait, j'étais déjà après mon premier court métrage qui s'appelle Purgatoire, j'étais sous contrat de développement d'un long métrage avec Christian Fechner, un des plus gros producteurs français que nous ayons connu en France, qui était quelqu'un d'incroyable et qui m'a beaucoup appris. Et donc j'étais en développement d'un long métrage avec lui lorsque malheureusement nous avons appris qu'il avait qu'il souffrait d'une tumeur. Et donc malheureusement ce premier long métrage n'a pas pu aboutir. Ce qui était évidemment plus dommageable, c'est que Christian Fechner soit malheureusement parti en fait à ce moment-là. Et c'était triste pour tout le monde, d'autant que nous avions travaillé avec Alexandra Fechner, donc qui était sa fille et qui était ma co-scénariste aussi avec Hugues Fléchard, qui est un des scénaristes de L'automne de Zao. Et donc, ce long métrage était très cher. Il y avait que Christian Fechner qui pouvait le produire pratiquement, parce qu'il était vraiment, c'était un des rares producteurs avec Claude Berry à pouvoir produire un film sans aucune aide de chaîne télé, de préachat, etc. Qui pouvait juste dire moi je le fais, voilà. Et donc il a fallu repartir de zéro déjà un peu sous le premier signe malheureusement de la mort en fait quelque part.
D'accord.
Donc par la suite dans ce projet-là nous avions plusieurs acteurs déjà très connus, hein, parce qu'on avait déjà commencé le casting en fait avec Christian Fechner. Après, il y a toute une histoire. On a beaucoup rencontré de gens. On a rencontré une personne chez Europacorp, etc. Et qui nous avait demandé de revenir avec un court-métrage plus long, puisque Purgatoire ne faisait que 6 minutes. Et il souhaitait voir quelque chose qui mette l'accent vraiment sur la direction d'acteur. Alors que sur le premier, je m'étais un peu amusé pas mal avec un esprit, un univers, une ambiance et un peu d'effets spéciaux. Donc du coup j'étais venu avec un producteur belge qui souhaitait être coproducteur sur le long et en sortant de ce rendez-vous-là on s'est dit bon ben voilà qu'est-ce qu'on peut faire comme film. Et donc c'est comme ça que j'ai hérité de L'automne de Zao dont l'idée originale en fait a été signée par Nathanaël Godard et Alain Richard. Et donc j'ai transmis ce projet-là à Hugues Fléchard qui était notre co-scénariste avec Alexandra Fechner sur le projet de long avec Christian Fechner. Et donc c'est Hugues Fléchard qui a tout mis en forme de façon absolument magnifique, qui est un scénariste de talent et un ami aussi. Donc, la chance a été d'avoir été très bien entouré Donc voilà, donc on a fait l'automne de Zao à ce niveau-là. Par la suite, donc, c'est Alexandra Fechner qui m'avait présenté Caterina Morino, puisqu'ils avaient bossé ensemble, ils avaient travaillé ensemble en fait.
La James Bond Girl.
La James Bond Girl
de Casino Royale. Voilà.
Et donc, qui, voilà, donc j'ai rencontré Caterina Morino, donc présentée par Alexandra Fechner. Et donc voilà, on a,
je trouve,
on a travaillé ensemble.
Excellente actrice, hein, au demeurant, en fait, dans le film, elle joue le rôle de la mère. Elle est vraiment, elle est bluffante, franchement.
Oui, et puis je la voulais justement à contre-pied de l'image qu'avaient les gens d'elle.
Oui.
Donc voilà, je voulais vraiment une, je voulais que ça soit une maman, quoi.
Et
je voulais que ça soit une maman, justement, touchante, en souffrance, et avec ce jeu de crête, quoi, pour tous les personnages, hein, c'est-à-dire, voilà, elle oscille entre la culpabilité, le regret, le désir de pas perdre son fils, l'espoir, le désespoir. Donc voilà, de placer les personnages toujours sur une crête permanente. Bon, ça c'est un peu justement la marque de fabrique de Terrence Malick, mais pas que. L'idée c'est d'avoir toujours des personnages qui soient en équilibre fragile, et que certaines scènes permettent justement de voir cet équilibre fragile avec des moments de bascule, en fait. Notamment la scène où Caterina Morino, c'est la scène de Caterina, où Caterina pleure, en fait, dans le salon. Et voilà, c'est un long plan séquence, voilà, qui nous a demandé beaucoup d'énergie à tous, notamment, bah, évidemment, beaucoup pour Caterina Morino, mais aussi pour l'équipe, parce qu'on a, voilà, on avait un shot pour le faire. Et voilà.
Scène très forte, parce qu'en fait, c'est vraiment typiquement le genre de scène qui peut basculer dans le, je dirais, dans le ou dans le mièvre, ou si c'est pas joué juste, ça peut faire basculer le film et sortir le spectateur du film. Là, en l'occurrence, on est complètement happé par la douleur de cette mère qui se rend compte qu'elle est en train de perdre son enfant.
Mm-hmm.
Tu voulais dire quelque chose ?
Oui, on parle beaucoup du film depuis tout à l'heure. On a presque oublié qu'il y avait un côté fantastique à ce film.
C'est vrai, mais
finalement, c'est presque secondaire. Enfin, moi, si je me trompe, mais...
Alors oui, parce qu'en fait, évidemment, pour moi, le fantastique permet déjà de raconter des histoires qu'on ne pourrait peut-être pas raconter d'ailleurs autrement. Moi, je voulais surtout pas arriver à quelque chose... Je voulais absolument éviter le pathos, en fait. Et donc, quand j'ai vu certains films, puis on en voit dans les festivals, j'en ai vu encore cet été, même à Los Angeles, où on voit, j'ai vu un film avec un enfant, avec le crâne rasé, dans un hôpital, avec une blouse blanche dans un lit. C'est absolument ce que je refuse de faire. Parce que ça, pour moi, c'est du voyeurisme. On n'est plus dans la souffrance, on est dans le voyeurisme. Et pour moi, ce qu'il fallait, c'était lutter contre ce voyeurisme par de la pudeur. Et ça, c'est mon, pour moi, ça, c'est mon truc à moi. C'est ce que j'aime défendre, en fait, c'est de la pudeur. C'est quelque chose qu'on oublie, c'est quelque chose qui n'existe plus. C'est quelque chose que la télé a complètement dévoyé. C'est quelque chose où, quand on regarde la télévision aujourd'hui, on va faire du zoom, du close-up vulgaire. Excusez-moi, mais c'est mon sens à moi des choses. Mais voilà, dès qu'on zoome sur quelqu'un qui pleure, je trouve ça indécent. Et surtout, je trouve que ça détruit l'émotion. C'est-à-dire qu'à force de montrer l'émotion, ça tue l'émotion. Parce que l'émotion, quand on comprend ce que c'est quelque chose de très différent. L'émotion est stimulée par des stimuli externes qui nous touchent, qui nous émeuvent et qui nous mettent en choc avec ça. Et on n'a pas besoin de le prendre en plein dans la gueule. On a besoin, en fait, de le percevoir, parce qu'on le perçoit, c'est comme ça. On a besoin de prendre parfois de la distance, parce que c'est comme ça. Parce qu'on a besoin parfois de se mettre en distance, parce qu'on a besoin de se protéger. Mais en même temps, on a toute cette cohésion sociale qui fait qu'on montre à l'autre qu'on peut être là, qu'on est là, mais qu'on n'est pas forcément sous son nez. Et c'est ce que montrent les caméras quand elles sont en close-up. C'est comme si je voyais quelqu'un dans la rue qui pleurait et que je me collais sous son nez. Mais qui ferait ça dans la rue, quoi ? Mais personne, absolument personne. L'idée, c'est de se dire, voilà, je te fais signe de loin, je suis là si t'as besoin, mais je me tiens un peu à distance.
D'ailleurs, la scène que tu réalises, donc cette scène, justement cette scène très forte, la caméra finalement s'éloigne au fur et à mesure où finalement elle se recroqueville dans sa douleur, et j'imagine que c'est ce que tu as voulu.
C'est exactement l'interprétation de mon intention créative, effectivement, comme d'autres plans, d'ailleurs comme des plans très très larges que je souhaitais avoir sur le lac, c'est-à-dire vraiment pratiquement on a des shots qui sont pris de l'autre côté du lac. On a des très grands plans d'ensemble où le personnage est miniature dans la nature.
La nature écrase tout.
Exactement.
C'est fantastique. Ouais.
La nature, voilà, c'est comme un documentaire animalier d'un être humain. C'est même plus un enfant, c'est même plus Zao. C'est un être humain dans le monde qui existe, qui vit et qui va mourir. Et voilà, qui va retourner à la nature, qui va retourner dans le monde. Et c'est cette conception, en fait, des choses. Voilà, avec beaucoup de distance, beaucoup de pudeur. À chaque fois qu'on a quelque chose de touchant et en tout cas de triste, je m'éloigne. On est dans la joie avec les enfants, on est très serré avec eux. Et quand ça pleure, on s'éloigne. On les laisse pudiquement On se tient à distance, comme si on était là, mais voilà, je te fais signe que je suis là, si t'as besoin, je suis là, mais je te laisse respirer, je te laisse un peu, voilà, je te laisse vivre, en fait, ce que t'as à vivre encore. Voilà, ça, c'était l'intention créative. Et donc, elle est représentée à l'image par des caméras très lointaines, pardon, avec des valeurs de cadre qui sont très, très larges. Et puis, si on est proche, eh ben, on va s'éloigner doucement, pudiquement. Voilà, un peu comme si on ne ferme pas la porte, mais voilà, je la laisse entrouverte. Si tu as besoin de moi, je suis à côté, quoi.
Tu voulais dire quelque chose, Marius? Oui.
Moi, oui. J'avais une question plus technique. C'est vrai que le film m'a beaucoup touché, mais il y avait des plans techniques où on voit les enfants essayer de faire les ricochets. Cette caméra qui bascule au-dessus du lac, qu'est-ce que c'était? Un drone? Avec quoi vous avez fait ça? Parce que il est magnifique, ce plan.
Si tu
plus.
Peux le dire, mais si effectivement peux, le plan oui. est très beau, mais
le
on est
plan
aussi
est magnifique.
Par le...
quoi.
Alors je suis désolé, mais c'est un secret professionnel.
Ok, ça marche. Votre question?
Non, tout simplement, en fait, on a fait ça. D'ailleurs, à l'initiative du chef-op, Fabien Drujon. On était sur un lac en fait où il y avait très très peu de personnes, hein, puisque il y avait un bateau en fait dans le coin, et Fabien a eu envie de monter sur le bateau pour faire ce plan. Et ensuite, c'est un plan qu'on a stabilisé en post-production pour le rendre vraiment super lisse, ouais, et de manière à ce qu'on sache pas comment ça a été fait, en fait.
Ouais, voilà. Parce que c'est vrai qu'on voit aucune ondulation sur l'eau, etc.
Bah moi, j'ai cherché, j'ai pas trouvé aucune.
Alors donc, voilà, non, mais on n'allait pas mettre une Red One sur un petit drone au-dessus d'un lac.
Mais comment on fait pour rattraper un plan comme ça en post-prod?
Très simplement, en stabilisant, en fait, hein, en stabilisant le plan derrière, en post-production, ce qu'on appelle du tracking, tout simplement, en post-prod.
En tout cas, ça rend très bien. Oui, Didouille.
Oui, alors moi, j'ai peut-être une question. Parce que tout ce que tu viens de dire, je suis tout à fait d'accord depuis le début, je trouve ça très beau. Pourquoi avoir choisi l'axe de l'enfance? On est parti de l'enfance, parce que le pitch que tu nous as donné tout à l'heure, ça aurait pu très bien correspondre à des adultes. Est-ce que tu penses que l'émotion, elle est, on va aller rechercher en nous l'émotion de l'enfant aussi qu'on a été, et je ne sais pas comment expliquer ça, mais pourquoi justement l'enfant?
Alors ça serait une question à poser au scénariste. Moi, je ne suis que le réalisateur sur le film. Voilà, c'était leur idée, c'était leur projet. Voilà, j'ai hérité du film. J'ai hérité du scénario. Et évidemment, je pense que oui, un enfant, c'est forcément plus touchant parce qu'il y a quelque chose d'injuste. Mais je pense pas que ça soit ça, en fait, qui soit un accélérateur d'émotion. En fait, je pense que l'important, c'est que l'émotion soit juste, quelle que soit la personne.
Parce que même l'émotion de la mère, on la ressent également. Fortement. Donc finalement, l'axe, c'est l'enfance, mais c'est plus la cellule familiale et peut-être un peu au-delà de ça, même.
Puis après, il y a le thème aussi de la rencontre. Enfin, ce que je trouve intéressant, c'est aussi l'imaginaire. C'est-à-dire qu'à un moment, ça, c'est un point qu'on n'a pas abordé, mais la conclusion, en tout cas le final du film, c'est quand même l'enfant qui, on peut le dire peut-être, qui. Alors, il y a. En fonction des gens qui regardent le film, ont des visions, en tout cas des
interprétations.
Interprétations différentes, et ce que je trouve une très bonne chose. En tout cas, quoi qu'il en soit, l'enfant à un moment est confronté à la créature, qu'on peut considérer comme être confronté à sa propre mort, ou alors, pour d'autres, c'est une façon aussi d'échapper à son état. Enfin, chacun y trouve un petit peu ce qu'il a envie d'y trouver ou d'y lire. Et peut-être, alors je sais pas, je dirais que c'est comme on parle d'imaginaire, est-ce que c'est l'idée de prendre l'enfant comme sujet principal? Et donc avec ce que tu disais, les contes, les créatures, peut-être que
permet d'ouvrir plus de portes.
Ouais. On est plus sur cette thématique que peut-être qu'un adulte, on est déjà sur autre chose, je ne sais pas.
Alors en fait, je ne sais pas si vous avez lu Le Chant du Monde de Jean Giono, qui est un livre que j'adore, que j'ai relu plusieurs fois. Et dans ce livre-là, en fait, on se situe dans un village très loin de la mer. Et il y a un personnage qui n'a jamais vu la mer, mais qui a rêvé toute sa vie d'être un jour capitaine de bateau. Et en fait, ce personnage-là ne verra jamais la mer. Mais le soir de sa mort, sur le lit de sa mort, alors que tout le monde est autour de lui, il y a une sorte de brume dans ses yeux. Enfin, il ne voit plus les gens qui sont autour de lui, il voit la brume. Et à travers la brume surgit un bateau, et ce bateau vient le chercher. Et évidemment, il est heureux, en fait, de rencontrer ce bateau et de se dire, voilà, j'embarque mes amis, maintenant j'y vais. Et évidemment, c'est une rencontre avec la mort. Et en fait, pour moi, c'est précisément ça, c'est-à-dire que voilà, c'est un vieil homme qui meurt et il a sa propre imagination. C'est, en fait, son imagination est sa propre échelle de sérénité vers la mort. Et ça, pour moi, c'était important de le montrer comme ça. C'est-à-dire, en fait, on a fait pas mal de planting en montrant, par exemple, des créatures en plastique, etc., des bouquins de contes pour enfants avec des créatures dessus, sur le lit, etc., etc. C'est pour montrer que, à lui, ça lui parle. Mmh. La petite fille lui dit, viens, on va sortir, je te montrerai, etc. Et surtout, c'est un petit truc de petite fille qui lui dit, tu vois, si tu fais 13 ricochets, tu vas rencontrer la créature. C'est un petit truc pour le faire sortir, parce qu'elle a bien compris qu'il était, qu'il n'avait pas envie de sortir. Mais lui, en fait, il est réceptif à ça, parce qu'il y croit, tout simplement. Oui. Le terreau est favorable à ce qu'il y croit. Mmh. Et en fait, on aurait eu un enfant avec ou une autre personne avec avec une autre envie. Je sais pas. Peut-être que c'est voilà, vrai. Si on aimait les bateaux, on verrait un bateau arriver dans la brume. En fait, l'idée, c'est de montrer qu'à travers cet exemple, qui n'en est qu'un parmi d'autres, c'est juste de montrer l'universalisme en fait de la chose et de dire, on voit pas systématiquement une créature. Ce qu'on voit, c'est qu'on voit ce qu'on a envie de voir. Oui. On va à la rencontre de soi, d'un soi qui se réalise. En fait. Voilà, comme la définition de l'existence d'un être humain qui meurt, c'est l'accomplissement de toutes les occurrences de son être. Et exactement, c'est exactement ça.
Donc, et puis il y a quelque chose d'intéressant que tu as dit hier, que c'est intéressant d'en reparler là, je trouve, c'est que justement la créature, notamment au niveau du travail sur les textures, le fait qu'elle soit presque faite de feuilles, de forêts. Mmh. Je voudrais que tu en dises deux mots là-dessus, parce que justement, elle fait corps avec la nature, cette fameuse créature.
Alors exactement, oui, ce que je disais hier, donc à l'issue de la projection, c'est que j'avais précisément souhaité, après une discussion avec la production, on s'est demandé quelle créature nous allions faire au final. Certaines personnes optaient plutôt pour une créature un peu réaliste à la Jurassic Park. Mmh. Et moi, c'était absolument pas ce que je voulais faire. Alors, déjà pour des questions de budget, mais pas que, on est quand même sur un court-métrage. Mais c'est surtout l'important, c'est qu'est-ce qu'on a envie de raconter en fait. Et on n'est pas du tout en ligne et en phase avec une créature qui sort de Jurassic Park. Mmh. L'important, c'est de bien comprendre que justement, on est dans l'imaginaire. Et cet imaginaire-là, j'en fais un planting. Quand, au tout début du film, quand l'enfant joue avec
sa voiture,
exactement, et que d'un coup la créature prend vie, entre guillemets, en plan subjectif. Mmh. C'est-à-dire qu'on comprend qu'on est dans sa vision à lui et que sa créature d'un coup peut vivre dans sa tête à lui. Mmh. Et donc voilà. Mais ce faisant, il va vivre sa vie, il va continuer sa vie, il va rencontrer cette créature, il va être au bord d'un lac et cette fille va lui raconter qu'il y a une créature qui vit dans le lac. Et forcément, son imaginaire s'enracine dans la réalité qu'il côtoie à ce moment-là. Et donc forcément voilà, il a le planting est fait, le terreau est là et voilà, donc après il va rencontrer cette créature, mais cette créature là quelque part elle symbolise autant la vie que la mort, c'est-à-dire que la créature fait corps avec la forêt. Effectivement, j'ai souhaité qu'on la texture avec des nervures de feuilles. C'est-à-dire qu'on parte pas d'une peau craquelée de lézard ou je ne sais quoi, ou de créatures de ce type-là, telles qu'on a l'habitude de les voir, mais je voulais précisément vraiment qu'on parte de nervures de feuilles, d'ailleurs d'où le générique de fin, en fait, avec ces nervures de feuilles qu'on voit tomber sur des étoiles. Donc c'est aussi des métaphores qui rentrent en résonance avec toute notre culture judéo-chrétienne de retourner à la poussière, donc avec les étoiles derrière, puis en même temps, voilà, on est sur Terre, quoi. Donc on est sur Terre et on... Et voilà, et le monde végétal est celui qui est le monde duquel nous venons tous, en fait, qui est la première forme, en tout cas une des formes les plus vieilles sur Terre. Et voilà, donc c'est pour ça que cette créature, j'ai aussi souhaité, quand on a fait l'étalonnage, qu'on ait l'impression que cette créature, en fait, on la voit pas tout de suite, oui, en fait.
Elle se fond dans la nuit.
Exactement. Et je voulais vraiment qu'on se dise. Et d'ailleurs, on a essayé de faire le travail, mais bon. Je souhaitais aussi que dans le sound design, en fait, au lieu d'avoir un bruit de créature classique, on va dire, j'avais envie qu'on combine plutôt des sons de craquement de bois, d'eau qui dégouline sur la créature parce qu'elle sort de l'eau. Donc, il faut imaginer tout ce ruissellement et tout ce bois qui craque, etc. Comme si la forêt se mettait d'un seul coup à composer sa nature, enfin, à se substantifier à travers une créature. Et que, voilà, d'un seul coup, ce personnage caché qu'on a tout le long du film, d'un seul coup, prenne vie en disant, mais moi, je suis là et je t'accompagne. Et je t'enveloppe, en fait. Je t'enveloppe et je t'emmène avec moi dans ce monde et dans ce cosmos. Voilà, avec certaines choses qu'on n'a pas fait. C'est un processus créatif. J'avais presque envie qu'on voit un Big Bang aussi originel dans les yeux de la créature. Voilà, comme une sorte de retour à la poussière d'étoiles, etc. Mais voilà, ça sera peut-être pour un autre film.
Garder des idées pour la suite. Voilà.
Oui, Freddy. Alors, ce film, il vit justement, il vit plutôt bien, on l'a compris. Tu parcours les festivals à travers le monde. C'est quoi la suite? Est-ce qu'on va pouvoir le voir à la télévision, par exemple?
Est-ce qu'il est disponible en ligne quelque part pour les auditeurs qu'on aurait trop teasé et qui ont envie de le voir? Ou est-ce qu'il faut aller dans les festivals pour le voir?
Bah écoutez, alors d'une part, pour l'instant, effectivement, nous sommes encore dans les festivals. Donc le film n'a encore que 7 mois pour l'instant d'existence en festival. Et nous avons effectivement déjà plus de 33 sélections officielles internationales. Et donc du coup, bah, pour l'instant, évidemment, il y a des festivals. Comme vous le savez, certains festivals exigent en fait que le film ne soit pas accessible sur Internet librement. Donc effectivement, oui, il va falloir encore patienter un petit peu. Cela étant, voilà, vous pouvez m'ajouter sur Facebook et je vous donne un lien privé pour le visionner.
D'accord.
C'est en précisant.
Mais on a envie de le voir. Mais on l'a nous dit. Il y en a trop.
Mais il fallait le voir. Parce que il fallait venir hier soir.
Mais nous, on diffusera par contre.
Non, non, on le diffusera
regardez
pas.
Les
nous.
Enfants.
Mais Nicolas Ross nous l'a donné. Donc on a pu le regarder comme ça.
Une autre question naïve, on va dire. Comment
pléonasme, Marius.
Comment vous vous faites rémunérer du coup ? Un film comme ça, ça coûte de l'argent.
Oui.
Où est-ce que vous récupérez un retour sur investissement, j'ai envie de dire ?
Ben, comment ça se passe ? Effectivement, c'est un film qui nous a coûté beaucoup d'argent, mais bon, on a aussi mis 4 ans pour le faire. Donc voilà, on est quand même sur un budget annoncé par la production de 92 000 euros. Donc on est sur 100 000 dollars de budget, quoi. Mais voilà, c'est un film qu'on a mis 4 ans pour faire.
Grosse équipe aussi.
Grosse équipe. Puis on a tourné quand même. Il y a des gens qui viennent d'un peu partout. Déjà au niveau du casting, il y a des enfants qui venaient d'un peu partout. Donc la petite fille venait de Nantes, le petit garçon de Paris, une grosse partie de l'équipe venait de Caen, d'autres personnes venaient de Paris. Et voilà, tout ça a tourné dans les Vosges et en Meurthe-et-Moselle.
Gérardmer.
Alors effectivement, c'est l'un des lacs que nous avons utilisés.
Longemer.
Alors on a tourné à Longemer.
Longemer, bah oui.
Et Pierre Percé en fait en Meurthe-et-Moselle. Donc voilà, qui est le grand lac.
Bien.
Voilà. En fait, c'est
une belle région. Hein.
On a composé le lac de 3 lacs en fait.
Et c'était très beau.
Mais alors pour répondre encore, excusez-moi, juste la question, c'est que du coup, oui, ça nous a coûté cher et effectivement, il n'y aura pas de retour sur investissement là-dessus parce que c'est une carte de visite. Pour tout le monde, du reste, hein, pour le chef-op, pour moi, éventuellement pour la production, etc., de se dire aussi, on a fait un film de 18 minutes sur lequel on a mis beaucoup de temps, de production value, etc. Et voilà, je pense que c'est important de faire des films, pas forcément en quantité, mais en qualité, et de se dire, voilà, même si j'en fais qu'un tous les 4 ans, j'ai envie d'y mettre mon âme dedans, en fait. Et pas de dire oui tu comprends on l'a fait ça vite fait parce que j'ai juste envie de tourner et ça j'ai des envies compulsives comme ça ça m'intéresse pas trop je m'attache vraiment à savoir ce qu'on raconte comment on le raconte jusqu'où on va dans quelle profondeur en fait quelle profondeur on souhaite atteindre et voilà même si il faut malheureusement dans ces cas-là il faut vraiment s'accrocher parce que effectivement 4 ans sur un court métrage c'est très très long et puis c'est une lutte permanente pour trouver le budget en permanence à chaque fois faut trouver de l'argent ou des aides etc mais c'est très long mais pour l'instant on peut dire que ça a porté ses fruits le film rencontre beaucoup de succès d'estime et je pense qu'effectivement 4 ans on a rattrapé entre guillemets beaucoup le retard s'il y a du retard l'important c'est que le film existe en fait peu importe qu'on aille vite ou long ou lentement ça a généré beaucoup beaucoup de rencontres notamment beaucoup aux États-Unis le film sur 10 prix et mentions que nous avons obtenus jusqu'à présent en 7 mois. Donc, il y en a 9 dans les pays anglo-saxons, dont 8 aux États-Unis et massivement à Los Angeles. Et du coup, ça m'a permis de déclencher des projets aux États-Unis avec ce film. Donc, voilà.
Donc, il y a des projets.
Donc, le retour sur investissement, c'est derrière,
ça,
en fait.
C'est la suite, quoi.
Exactement. Et un projet français aussi que j'ai avec justement Alexandra Fechner. Qui est un film.
Un long métrage ?
Je ne parle que de long métrage en fait.
D'accord.
Donc un projet américain et donc un projet français. Et ce projet français, c'est un film qui me tient vraiment à cœur, que j'écris. Et qui sera encore dans la veine poétique en fait, qui était pour moi aussi une révélation, puisque j'étais plutôt sur du thriller d'action dans les projets de long métrage que j'avais précédemment avec Christian Fechner. Et là en fait, avec l'automne de Zao, ça a été pour moi aussi une rencontre avec moi-même en fait. Et j'ai découvert en allant dans les festivals, en discutant avec les gens, que les gens étaient demandeurs de ça. Et quelque chose qui raconte, quoi. Pas juste un truc poétique comme ça, mais vraiment quelque chose qui est de la profondeur.
Très bien. Juste une dernière question, peut-être.
On peut encore en avoir plus. Moi, j'ai mon temps, plus je vois qu'il y a des viennoiseries sur la table.
Justement, elles sont là pour être mangées.
Oui, mange.
Je ne parlerai pas la bouche.
Est-ce qu'à tout hasard, tu as un projet de film d'animation dans les cartons, alors pas forcément animation style image de synthèse, mais avec un autre procédé graphique original. Est-ce que ça te tente de est-ce que t'as idée un jour de faire ce genre de film hein?
Alors comme vous l'avez vu dans l'automne de Zao, en fait, on a un petit mélange des deux. Hein. On a du oui. footage avec de l'intégration d'images 2D. Bon, voilà, qui ont une inspiration, on va dire, entre guillemets, hein, parce que c'est pas le cas en réalité. Oui. C'est de l'infographie quand même, mais avec un côté traitement à la main, entre guillemets, on va dire. Mais cet aspect-là, moi, c'est évidemment quelque chose qui me plaît beaucoup. Donc, en tout cas, pour le projet français, effectivement, bon, bah, je vous révèle un peu en avant-première.
Oh yeah, ah, scoop.
Ouais.
Et qu'il y aura beaucoup, beaucoup de. Enfin, je l'espère. En tout cas, ça va dépendre aussi du budget, mais en tout cas, mon souhait, effectivement, créatif, est d'aller vers quelque chose de très graphique et. Voilà, ça me brûle les lèvres d'en parler. Non, d'autant plus que
c'est marrant parce que moi aussi,
sur le scénario, il y a encore une demi-heure en train d'écrire le traitement, mais donc voilà, et je suis encore bien dedans. Donc voilà, il faut pas que je lâche de choses, mais voilà, c'est quelque chose en tout cas qui me tient à cœur, en tout cas spécialement, ouais. et c'est quelque chose qui me parle d'autant plus que je pense vraiment et je pense vraiment que le fantastique permet d'aborder des sujets très graves,
oui.
sans être dans le pathos. Ça. Et ça élague en fait le traitement pour toucher le sujet vraiment, le fond.
Ça offre aussi une liberté de traitement pour le coup.
On est moins limité, oui, si on veut. C'est-à-dire que d'être ancré dans le réel. Oui.
Son imaginaire est dès l'instant où on a un traitement graphique, quel que soit le procédé, on a une infinitude. Enfin, c'est à l'infini quoi. On peut aller où on veut dans l'imaginaire.
Alors le mot que vous avez employé, c'est marrant, parce que c'est vraiment un mot qui me parle beaucoup, c'est la notion d'infini en fait. C'est effectivement le fantastique. Dès lors qu'on rentre dans de la poésie, on l'a vu d'ailleurs avec des gens qui ont des interprétations très différentes de la créature dans le film, chacun un peu sa lecture à lui. Mais effectivement la poésie sort de l'aspect purement presque, on va dire, documentaire de certains films qui se veulent très réalistes et pour montrer un peu la mort crûment, etc. La mort, de toute façon, elle est telle qu'elle, elle peut être brutale, violente, injuste, on peut la nier, etc. On a toutes les étapes qu'on connaît bien, etc. Mais, ok, l'important n'est pas de raconter le petit parfait manuel, la psychologie, voilà, des cinq étapes d'acceptation de la mort, etc. L'important, c'est justement de se dire, bon, ok, ça, on peut l'éluder, maintenant, qu'est-ce qu'on raconte ? Qu'est-ce qu'on raconte ? On raconte, voilà, c'est un être humain qui va partir, mais qui va partir en laissant des choses. Il va laisser, par exemple, à cette petite fille qu'il a côtoyée l'espace de quelques jours, de quelques heures, il va en fait lui laisser un apprentissage de quelque chose. Et elle s'en rendra compte elle-même que quand elle sera concernée plus tard, 60 ans plus tard, par ce qu'elle a appris, sans en avoir même eu conscience. Et donc là, on touche à des sujets beaucoup plus... Voilà, on va mettre de la profondeur dedans. C'est-à-dire que là, on n'est pas dans de l'immédiateté, comme on le voit beaucoup, et malheureusement avec les événements récents qu'on a connus en France. Donc voilà, l'histoire, c'est comment un enfant de 9 ans construit sa propre échelle de sérénité face à la mort, par sa propre imagination, en toute sérénité. Donc c'est vraiment une approche pour moi, à mes yeux, mais bon, voilà, c'était pas forcément le choix des scénaristes, mais en tout cas, moi, c'est ma réalisation de ce film, c'est d'avoir cette approche un peu bouddhiste, de se dire, ben voilà, en Occident, effectivement, on a toutes ces étapes de déni, etc. Et ben, comment un enfant peut faire, lui, et c'est peut-être là que l'enfant y pratique aussi, mais bon, il y a des adultes aussi qui l'abordent de cette manière-là, mais c'est d'autant plus émouvant et touchant à ce niveau-là, par contre, effectivement, de se dire, voilà, un enfant est capable, par sa propre imagination, de déployer sa propre échelle de sérénité, tout seul, presque un peu par magie d'ailleurs, voilà, de se dire, voilà, il ne se pose pas de questions en fait, il est en rencontre avec le monde et la nature, et il l'aborde, il est capable de la trouver en toute sérénité, pas forcément l'état de conscience d'ailleurs, mais en tout cas, le fait est que, voilà, il y arrive. Et ce plan où. Ce garçon touche le museau de la créature, c'est vraiment l'apprivoisement de la mort en fait. C'est ce moment-là où j'ai voulu volontairement, excusez-moi pour cette formule, mais j'ai vraiment, on l'aborde, hein, je l'aborde d'abord, il y a un premier recul du garçon quand la créature s'approche, voilà, donc là j'évacue tout de suite la notion de la prédation, et l'enfant revient et touche la créature, et là on aborde le fait qu'il l'apprivoise. Et assez vite, donc il y a juste un recul et je réavance. Et le reflet du garçon dans l'œil de la créature, voilà, c'est ça. Je rejoins le monde, je rejoins les éléments, je rejoins le cosmos. Cet œil de créature qui est à la fois une sphère, un monde, une planète, une fenêtre sur le cosmos. Voilà, je rejoins les étoiles qui sont derrière, en arrière-plan, dans l'œil de la créature, à la fois en reflet, mais aussi comme une sorte de trou noir qui nous absorbe dans le cosmos, en fait. Donc voilà, l'idée d'avoir plein de choses en résonance d'un point de vue conceptuel.
Eh ben. Ben, merci beaucoup d'être venu.
Non, moi j'avais encore une question.
Vas-y, vas-y, non mais attends.
Non, mais notamment pour le projet de long métrage avec les financements, vu qu'il y a énormément de gens qui te sollicitent pour faire en sorte que ce genre de film existe en long métrage, l'idée de Kiss Kiss Bang Bang ou des choses comme ça, ça... Quoi ? C'est pas bien ?
Le financement participatif.
Voilà, le financement participatif, parce que lors du festival This is England, il y avait notamment un court métrage qui avait été... qui avait été en partie financé par Kiss Kiss Bang Bang et qui a fait son petit bonhomme de chemin puisqu'il a été primé aussi. Est-ce que ça peut être envisageable ou pas du tout ?
Bah écoutez, je suis pas producteur donc je ne sais pas en fait. Peut-être que ça marche. Moi je pense qu'il y a maintenant je pense qu'il y a un effet de saturation parce qu'il y a beaucoup trop de projets.
Tu es d'accord.
Et du coup, je pense que le moment l'âge d'or est passé en fait, de façon concrète. En tout cas c'est mon point de vue. Hein. Il y en a qui y arrivent, c'est très bien. Je pense que ça dépend de l'ampleur du projet. C'est sûr que si on a besoin de 2000 euros, c'est assez facile. Si on en a besoin de 90 000, ça va être compliqué. Et alors sur un long métrage, ça risque d'être vraiment compliqué. Et je pense que voilà, le temps passant, ça va être de plus en plus compliqué parce que voilà, il y a une surabondance de projets maintenant et que tout simplement, les gens ne peuvent pas mettre de l'argent partout. Et que voilà, alors peut-être que c'est une solution, je ne sais pas. Moi personnellement, je me pose pas cette question parce que je déploie mon énergie sur l'écriture et la réalisation. Mais d'un œil extérieur, personnellement, je suis plutôt dubitatif en fait.
Oui.
Mais je le dis franchement parce que voilà, c'est comme ça. On a essayé aussi nous-mêmes sur je ne sais plus quelle plateforme. Il nous fallait 8000 euros qu'on n'a pas obtenu. Voilà, il y avait beaucoup de films à ce moment-là qui demandaient de l'argent. Et puis les gens sont sursollicités. Et puis quand on a déjà soi-même dans son réseau beaucoup de comédiens, de réalisateurs, etc., qui sont eux-mêmes en demande. Eh bien, nos amis communs sont sursollicités. Donc, à un moment donné, les gens peuvent. Même moi, je veux dire, il y a des projets que j'aime, mais de façon très pragmatique, je vais donner mon argent sur mon film, tout simplement. Donc, même si j'aime mes amis, si j'aime leurs films, leurs projets, etc., et que j'irai forcément les voir en salle, et je vais leur dire bravo pour ce que vous avez fait et d'avoir trouvé l'argent, etc. Mais oui, je reçois moi-même tous ces mails-là de sollicitations, et je suis comme tout le monde, quoi. Je veux dire, c'est comme à la porte, quoi. Les pompiers sonnent, les policiers sonnent, les éboueurs sonnent. Et puis après à un moment donné on dit j'ai déjà donné quoi. Et c'est un peu ça. Et je pense que voilà, c'est très pragmatique hein, ce que je dis, mais je pense que c'est vrai.
Bah oui.
Oui, tout à fait. Bien placé pour le savoir.
Donc voilà. Et puis il y a aussi peut-être un autre projet de court-métrage quand même, dont j'ai pas parlé, mais c'est vraiment trop tôt pour en parler. Mais c'est une amie qui. C'est une amie très très proche qui me l'a proposé. C'est un projet d'horreur cellier, donc on va voir comment ça avance de son côté. Elle coécrit avec un autre scénariste, et donc voilà, j'attends qu'ils aient avancé dessus pour voir
plus.
Un peu, voilà. Et pareillement, voilà. Donc ça peut être aussi un projet qui arrivera peut-être donc plus tôt, puisque c'est un court métrage. Mais voilà, c'est aussi quelque chose que j'ai envie d'explorer, mais qui n'aura par contre a priori, en tout cas, j'ai pas encore lu. Projet parce qu'ils ont envie aussi de ne pas le déflorer, ils ont vraiment envie d'attendre une version très finalisée pour me le présenter. Et dans le long métrage américain qu'on me propose, donc c'est un autre film qui me touche par ailleurs sur d'autres choses aussi, mais en fait voilà, j'ai aussi envie d'explorer des territoires très différents, et notamment le traumatisme, tout ce qui tourne autour de la psychologie en fait m'attire en particulier.
Moi j'adore ça.
Et donc voilà, on va lâcher un petit peu le mot, mais c'est autour des PTSD, donc les syndromes post-traumatiques. Et voilà, ça c'est aussi un sujet qui me parle beaucoup, parce que dès lors qu'on peut rentrer sur dès lors que je peux mettre un personnage sur une crête en fait, ça m'intéresse. Dès que je peux le mettre en déséquilibre, ça m'intéresse. Et de voir comment un être humain trouve son équilibre, ça m'intéresse énormément. Et voilà, je pense que c'est ça qui touche en fait, au-delà du sujet, au-delà du traitement, c'est d'avoir une sorte de miroir de l'humanité en face de soi, et de se dire comment moi j'ai un peu de gravité face à ça, moi ce sont des choses qui m'intéressent en profondeur et pas juste de façon très visuelle et graphique, même si ce sont des choses que j'adore. Je travaille dans les jeux vidéo chez Ubisoft et voilà, j'adore aussi des univers très graphiques, très visuels, mais j'adore aussi quand ça raconte quelque chose. Et notamment, par exemple, j'ai eu la chance de travailler sur un des jeux que nous avons fait chez Ubisoft qui s'appelle Soldat Inconnu.
J'en avais parlé, je crois, d'ailleurs, ici.
Oui.
Qui était vraiment excellent.
Ouais. Exact.
Merci pour l'équipe qui a bossé dessus.
Tu pourras les. Enfin, mon humble avis, c'est que c'était vraiment une expérience.
De la part de Nico.
De la part de Nico de l'Anthropode.
L'Anthropode.
C'était vraiment une expérience. À la fois. je dirais, culturel, ludique et visuel. Et aussi le sound design et tout ce qui était. Enfin, tout était vraiment. Vraiment top, quoi. Et il y a le stand Pixel là-bas qu'on croise souvent, qu'il l'avait mis d'ailleurs à Normandie Bulle en exemple pour montrer que les jeux vidéo c'était pas que le grand méchant, la sale chose. Au contraire, qu'il y avait des gens qui mettaient de la qualité. Donc tu vois, c'est souvent cité en exemple ce titre.
Exactement, oui, c'est vrai. Mais je pense qu'effectivement l'important aujourd'hui c'est de. Mais il y a une maturité aussi hein, dans le jeu vidéo qui est assez jeune et qui grandit. Donc il arrive aussi à un âge de maturité qui fait que le jeu vidéo produit maintenant aussi des œuvres. Vraiment digne de ce nom.
En tout cas, j'espère qu'on vous aura donné envie de d'en savoir plus sur ce.
Je le regarde ce soir.
Sur l'automne de Zao.
Donc, ce soir, maintenant.
Sauf s'il y a quelqu'un qui vient.
On a la chance de l'avoir là, mais c'est vrai que s'il passe dans un festival près de chez vous ou quand il sera peut-être en ligne un jour, etc. C'est vrai que c'est quelque chose de très très imprégnant en fait. Voilà.
Intense.
Donc merci d'être venu à notre micro, d'avoir partagé ces instants avec nous. Et puis,
on va te suivre.
On va te suivre sur Facebook. Enfin, et puis on espère que là.
Pas là en partant.
Si, c'est ce que je comptais faire.
Et on espère que le film, qui a déjà connu plusieurs récompenses, en aura encore d'autres. Hein, et puis, au plaisir de voir tes prochaines productions et réalisations à ce moment-là. Enfin, plutôt réalisation que production.
Oui. Enfin, par la force des choses, j'ai été un petit peu coproducteur sur les courts-métrages parce que c'est un peu malheureusement ce qu'on est un peu tous obligés de faire. Mais voilà, en tout cas, c'est vrai que j'ai plutôt envie de réaliser et d'écrire un petit peu. Voilà, j'écris sur le français, mais pas sur le film américain. Mais vraiment, par contre, oui, à réaliser, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Mais bon, en tout cas, merci à vous tous pour votre accueil.
Merci à toi.
C'est moins très chaleureux.
Beaucoup, ouais. Tu vas pouvoir manger maintenant.
Il y a quelques viennoiseries qui t'attendent.
Merci, Nicolas.
C'est terrible, les festivals, on n'arrête pas de manger. Mais bon, c'est chouette.
À une prochaine fois.
Merci à vous tous.
Nicolas.
Merci infiniment.
Donc, après ce premier invité assez prestigieux, on peut dire, un autre qui est non moins prestigieux, mais qui en plus fait partie de notre entourage proche, puisque c'est
moi-même.
Alors Ludo, on voulait
j'ai vu ton film.
Splendide, splendide. Par contre, on voit pas bien Didouille, ça fait un peu trop des. Mais je sais pas.
Parce que j'ai
la caméra au point, ça marche pas bien pour ce genre de film.
Mais ils étaient au fond aussi. Hein.
Et puis ça fait mal.
C'est vrai que c'est pas mal. J'ai tenté un nouveau processus révolutionnaire de GoPro accroché au bout.
Là, on voit que du poil.
Le problème, c'est qu'au bout de moment.
Et du rouge.
Au bout de moment, ça finissait par racler les parois à l'intérieur. Donc,
là, c'est plus du tout poétique.
Fallait, voilà.
Ça l'avait été.
Tu la sens ma GoPro, hein.
Je pense que Didouille faisait allusion à notre invité précédent, en fait, la poésie, plus que par rapport au début du propos.
C'est vrai que
là,
ça y est, on commence à partir en vrille. C'était le.
Ah oui.
Allez. Oui, ça te. Voilà.
Allez, vas-y, fais-nous rêver.
Donc, Ludo, oui. Pourquoi est-ce que tu es dans le rôle de l'invité ? Eh bien, c'est parce que tu as participé au comité de sélection.
Effectivement, j'ai participé au comité de sélection.
Pour le dire. Vas-y.
Oui, non. Donc, tu as vu le film que nous a parlé Nicolas.
Tu as fait partie de ceux qui l'ont retenu pour la sélection officielle.
Oui, mais moi, pas tout seul, en fait.
Non, mais est-ce que tu peux nous en dire plus ?
Ça va être insupportable.
Alors, d'accord, je ne veux pas d'accent. Oui, en fait.
Dis-nous en plus sur ces soirées de sélection.
Voilà, rapidement, en fait, Alex, qui organise le festival, a eu la gentillesse de nous proposer, en tout cas, de proposer à un des membres de l'entrepôt de participer au comité de sélection. Et je vous en remercie, hein, parce que vraiment, dans votre grande mansuétude, l'autre il est en train de se moucher à côté de moi. Ça va, ça se passe bien la vie,
c'est
là.
C'est pas le vent dans les voiles, c'est Marius qui se mouche.
C'est...
Je suis désolé, je suis malade.
Mais oui, je vais mourir.
Non, mais regarde.
Hey, toi, je te préviens, je te pourris les 15 prochaines présentations que tu fais.
Et, il est un peu vert, ton micro, là.
Ça va, t'as bien raclé ?
Ah, c'est chiant.
Ah oui, tu m'étonnes.
On rêvait encore.
Oui, non. Et donc, j'ai été un peu désigné volontaire d'office pour aller participer au comité de sélection aux deux jours.
Tu dis ça comme si ça avait été une contrainte. Tu y es allé de bon cœur.
J'y suis allé de très 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 bon cœur. Et donc, en fait, pour participer à la sélection des courts métrages qui sont diffusés hier, qui ont été diffusés hier et ce soir. Et voilà. Donc, c'était très très sympa de participer, d'être de l'intérieur, de voir comment ça se passe. Et donc. Voilà, avec ma GoPro, tu veux dire ?
C'est l'image que j'ai eue également quand tu dis ça.
Voilà.
Combien de courts-métrages
Je me suis raclé. trentaine. Ça,
c'était en fait, une trentaine au départ. Voilà.
Oui, exactement. Merci Didouille de remettre les choses un peu sérieusement.
J'espère que c'est plus sérieux, oui.
Non, ouais, une trentaine de courts-métrages. Et alors, en fait, donc, quand on parle de courts-métrages, il y en a eu à peu près, je crois, 12-13 qui ont été sélectionnés au final. Il faut les recompter. Et c'est intéressant parce qu'on voit vraiment des choses assez différentes. À la fois des choses très diverses, c'est-à-dire alors de français, 12, voilà, français, espagnol, canadien. On voit vraiment des choses, même brésiliens, donc des courts-métrages.
Même brésiliens.
Mais des courts-métrages qui viennent d'un peu partout dans le monde. Et puis aussi des courts-métrages de tout niveau. On a des courts-métrages extrêmement professionnels, notamment l'automne de Zao, par exemple, qui franchement. Enfoncé pas mal.
Est-ce qu'il y a des gros nanars ?
Et il y a des gros nanars. Et les gros nanars, on les verra pas. Donc,
non, bien sûr.
On les verra pas parce que vraiment, c'était. Il y a des choses. Bon, je dirais, l'intention peut parfois être là. Les moyens, des fois, c'est un peu moins ça. Donc, soit des choses qui sont pas forcément très très bien jouées, pas toujours très bien filmées. Bon, voilà.
Ou le propos, des fois, est-ce que ça peut être le thème qui peut être excluant.
C'est ce que le comité de section m'a expliqué en fait dans les versions précédentes. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un passage de viennoiserie qui se fait là, juste hop là. Je sauve la vie à Marius.
Regardez le sens des priorités.
En fait, effectivement, comme ils m'ont expliqué, en fait, en fonction des années, les thèmes varient. Il y a encore 2-3 ans, le thème du film de zombie était hyper à la mode. Donc il bouffait littéralement du zombie à l'appel. Cette année. Je crois qu'on en a eu un, et c'est tout, même pas à peine. Et c'est un canadien d'ailleurs pas terrible, honnêtement. Il n'a pas été
retenu.
Non, à l'unanimité.
D'accord.
Donc, par exemple aussi, là, j'ai trouvé qu'il y avait quand même pas mal de choses, parfois assez poétiques, pas mal de post-apo aussi. Donc,
oui, parce que c'est quand même quelque chose. Enfin, pour en avoir discuté avec Starlet, qui est pas là aujourd'hui, mais je me fais son porte-parole. Peut-être qu'il y a une imagerie pour le public qui fait un peu l'amalgame entre le fantastique et l'horreur. Et c'est peut-être d'ailleurs un truc qu'il faudrait voir avec Alex, qui n'est pas là pour l'instant, mais c'est vrai que le lien se fait sur Rouen Horror Fest, et que peut-être que ça coupe une partie du public en termes de communication et de visibilité, alors que, comme on peut le voir là, il n'y a aucune horreur dans l'automne de Zao. Quand on parlait des Miyazaki c'est du fantastique, enfin, il n'y a pas forcément besoin de gore et d'horreur pour être dans du fantastique, quoi.
Je vais vous citer quelques films rapidement qui ont été sélectionnés, et donc ceux qu'on a vus hier. Donc suite à l'issue de cette sélection qui s'est déroulée dans la franche bonne humeur et le débat
vous avez picolé, quoi.
Moi non, vous me connaissez, hein, je bois pas, je fume pas, je baisse pas, donc mais par contre les autres oui,
sauf c'est avec la GoPro,
sauf avant-hier, c'est vrai, je reconnais. Pardon,
dit-il
alors que voilà,
Junior
voilà la progéniture.
Ah, il est pas né dans une rose non plus, enfin.
Bah si,
un chou peut-être.
Est une rose.
Sa mère est une rose. Et son père est le tas de fumier. Elle était plantée sur moi.
T'as raison, on continue dans la poésie. Ludo, tu sais si bien le faire.
Et donc,
non, mais je crois qu'il pourrait écrire des courts-métrages. Hein.
Mais il a déjà fait, je crois.
Oui, c'est vrai. Mais bon,
ceci est une autre histoire.
C'est une autre histoire. Et donc voilà, donc, la sélection se marchait comme ça. On a donc enquillé sur 2 soirées les films. Et puis à chaque diffusion, un vote. Oui, non, peut-être. Et à cette issue-là, on votait à la majorité, savoir si on retenait ou si on retenait pas. D'accord. Et donc voilà, en gros, c'est un peu moins de la moitié qui ont été retenus. Avec des choses très diverses, science-fiction, comédie, films poétiques, mais finalement pas d'horreur.
D'accord.
Très très peu, des choses vraiment là où je m'attendais vraiment à voir des trucs trash. Ouais, j'en étais pour mon compte.
D'accord. Donc c'était une bonne expérience pour toi, quoi, cette première.
À part quand même le film de vacances de Marius qui a été projeté, c'est une horreur, quoi.
C'était un vrai film d'horreur, celui-là.
Ouais, mais on a mis tout notre cœur.
Juste pour vous citer quelques films, les quelques films qui ont été diffusés hier soir, en fait, dans la sélection officielle, on a eu droit en fait à, donc outre l'automne. Qu'est-ce qu'il fait?
Il joue avec les ressorts de son nouveau support de micro.
Oh, c'est beau, tu peux c'est me génial, le faire, hein. Ça prend que je
vois. Et tout d'un
homme s'approche.
Ça fait très très fou.
Il vint à ma rencontre.
Félicitez le long du.
Et m'échappa le trou du. Il en arriva.
C'est bien ça.
Oui, ça c'est.
On fait du sound design comme ça avec
ça marche pas. Non,
mais j'ai mon truc. Moi j'adore. Moi je suis content. 12 €.
Donc pour vous dire voilà les quelques pour vous donner une idée du j'avais de la largeur du panel ou de la largesse du panneur.
Ça, c'est bon, ça.
C'est bon, ça.
Ouais, nickel. Il parle de moi.
Il n'y a pas une contre-pétrie.
Donc, c'est un peu l'idée. Donc, outre, n'est-ce pas outre l'automne de Zao, dont on a largement discuté avec son réalisateur tout à l'heure, en fait, on a eu d'autres courts-métrages, parfois très courts. On en a eu un qui s'appelait Curfew, notamment. Un court-métrage de 3 minutes, Curfew, couvre-feu en anglais, qui est un court-métrage d'animation sur un dénommé Jack, qu'on peut supposer Jack l'éventreur, qui passe un pacte avec le diable pour assassiner des gens, et notamment des femmes, en contrepartie d'une bourse magique. Je vais vous arriver.
T'en veux de la bourse magique.
C'est un court-métrage qui est absolument magnifique, parce qu'en fait c'est tout en teinte de rouge, vraiment dessiné. Je pense que Christophe, ça te parlerait énormément. Il est juste magnifique.
C'est pour le rouge que tu dis ça?
Le rouge,
c'est de l'animation.
Non, c'est pour le l'animation. Rouge, le noir, puisqu'il y a du rouge et du noir.
Le blues.
L'espoir. Bref, outre celui-là, on a eu également droit à, donc je parlais de post-apocalyptique, un autre court-métrage qui s'appelle Avant, donc d'Arthur Tabuteau. Et alors pareil, là encore, on est dans une veine assez optimiste, assez poétique, donc à la fois post-apocalyptique et poétique, puisqu'en fait ça se passe sur un monde qui est ravagé suite à une guerre commise par des robots qui ont a priori détruit l'humanité. Et on suit le parcours d'un enfant ou d'une enfant, c'est difficile à dire, c'est assez androgyne, et qui va donc essayer de survivre là-dedans, et qui va rencontrer un de ces robots qui, finalement, ne va pas se comporter exactement comme on aurait pu s'y attendre. J'en dis pas plus pour ceux qui ont eu l'occasion de le voir. Très belles images. Alors là, pour le coup, le réalisateur expliquait que la démarche, justement, était de s'inscrire à contre-pied de toutes les visuels 3D, etc., et de revenir à une espèce de cinéma un peu pré 3D et en utiliser que des effets
spéciaux, quoi, finalement.
Oui, mais voilà, tu as une incrustation, mais pas numérique. Et notamment, tu as des plans qui sont absolument magnifiques, hein, de villes complètement détruites. Oui.
Oui, du coup, j'ai une question qui me vient à l'esprit. Pour revenir un petit peu à la sélection, est-ce que tu as une grille avec des critères comme histoire, désirabilité?
Oui,
c'est pas juste la subjectivité, j'ai aimé, j'ai pas aimé, t'as vraiment certains critères.
En gros, tu y retrouves. Il y a un monsieur avec un chapeau bizarre là, c'est un spectateur.
T'entends pas?
Je sais pas.
Il est vieux, il entend rien.
Il fait des gestes. Ce monsieur fait des gestes, il me fait peur. Pour répondre à ta question, Freddy, en fait, il y avait des critères de jeu, d'effets spéciaux, de mise en scène, des critères de. Qu'est-ce que je voulais dire, de photos aussi. Voilà, donc en fait,
on a et une part d'impression générale.
Oui, c'est tout à fait. Et au bout du compte, par rapport à ça, tu te fais ta grille et puis d'ailleurs, tu te dis voilà qu'est-ce que je retire. Mais très très vite, en fait, on se rend compte lorsque tu as quand tu vois le court-métrage et qu'il y a la discussion, très vite ça s'oriente en fait. Il y a vraiment des choses des fois qui sont très rédhibitoires. Là encore, je parlais de jeux d'acteurs ou de mise en scène. Franchement, où tu vois que c'est vraiment ça, c'est
limite. Hein.
Les choix sont.
Ouais, t'as certaines choses qui frisent un peu l'indigence, hein, donc du coup, tout de suite, à ce moment-là, ça t'arrête, hein, ça t'arrête direct.
Les choix sont assez flagrants, finalement.
Pas toujours, parce que parfois, tu as eu du débat, notamment sur des films qui étaient à la frontière du fantastique,
d'accord,
et du réalisme. Par exemple, est-ce que le trip d'un drogué, on considère que le trip d'un drogué, est-ce que c'est considéré comme fantastique pas? En tout cas, le traitement l'est-il, ne l'est-il pas? Là en l'occurrence il a pas, le film on l'a pas retenu.
D'accord.
Une autre histoire par exemple dont le sujet est resté tout le monde est resté un petit peu en dehors, assez hermétique. Il y avait un côté un peu fantastique, mais voilà, c'était très bien réalisé, bien joué, etc., mais voilà, ça n'a pas accroché, ça était à l'unanimité. Il y a eu du débat quand même, mais au bout du compte il a pas été retenu. Voilà, c'est quelques exemples, quoi. Donc voilà, et puis on a également vu donc hier un court-métrage que j'ai bien aimé qui s'appelait They Will All Die in Space. Ils mourront tous dans l'espace.
Donc plutôt science-fiction.
C'est de la SF. C'est de la SF. SF pure. Un peu un film en noir et blanc, mais cette fois dans un vaisseau spatial avec un côté très alien. Noir et blanc avec un côté un peu quatrième dimension, j'ai trouvé. Donc avec une histoire à chute. Donc de 15 minutes, là aussi, c'est un court-métrage espagnol très très sympa. Et puis un qui durait 25 minutes, Le Saut de la Corruption, avec tout un tas de doubleurs assez connus dans le milieu du cinéma, parce qu'il y avait Damien Boisseau qui double Matt Damon, Edward Norton, Benoît Alleman qui double Morgan Freeman, et puis aussi Richard Darbois qui était le conteur. De, voilà, Richard Darbois qui est donc Buzz l'éclair, qui est le génie d'Alana, qui est Indiana Jones surtout. Donc, et qui jouait, enfin, en l'occurrence, c'est le conteur de l'histoire. Mais voilà, ces gens-là qui sont doubleurs étaient comédiens dans le film.
D'accord.
Donc voilà. Et celui-là avait beaucoup plus au public et avec beaucoup plus au comité de sélection. Et
là, sans, de toute façon, ça sera pas diffusé avant demain, donc il y a pas de.
C'est qui a gagné.
Il y a pas de secret. Non, mais c'est pas ça justement. Quel serait toi ton favori parmi les 6 qui ont été retenus, ouais, si tu peux nous le dire. Est-ce qu'il y en a un vraiment qui a retenu ton attention?
Pour moi, hier, c'est L'automne de Zao, mais c'est vraiment parce que le film m'a vraiment touché en fait.
Ouais,
parce qu'il est. Ouais, il est. J'ai trouvé beaucoup de profondeur et de poésie et voilà. Et sinon, celui que j'ai vraiment beaucoup aimé aussi, c'était They Will All Die in Space, mais qui est plus classique dans sa facture,
d'accord,
on va dire. Voilà.
D'accord. Bon. Voilà. En tout cas, vous y retournez. Je sais pas qui retourne ce soir.
Ce soir, est-ce
Ludo,
que tu peux nous parler rapidement des films qu'on pourra voir ce soir?
Ah, dommage, j'ai pas mon papier avec moi là.
Bon, dommage.
Sinon, tu nous en reparleras demain, toi.
Ouais, malheureusement.
Oui,
oui, c'est que... dommage. Alors, pour le coup, en plus, il se trouve que j'ai manqué 5 films. Parce que j'ai dû partir un peu plus tôt le premier soir. Et il se trouve que parmi 5 films, il y en a 3 qui ont été retenus, dont 2 qui passent ce soir que je n'ai pas vu, que
d'accord,
je découvrirai avec vous.
Ok.
D'accord. Donc voilà. Effectivement, tu seras complètement neutre, ouais, de toute.
En tout cas, il y en a de mémoire, parce qu'en fait, là, quand tu dis, il y en a au moins un qui est dont je. Oui, il y en a 2. Il y a Frankenstein qu'on va voir, qui est une espèce de comédie un peu comédie horrifique, assez marrante. Là, pour le coup, que j'ai trouvé assez sympa. Il y a également, alors je ne me souviens plus bien du titre, mais par contre ça se passe dans un cimetière, c'est un film d'animation très très réussi, qui passe, qui devrait te plaire je pense, avec un côté très Tim Burtonien, donc très sympa. C'est les 2 principaux dont je me souviens. Après voilà, on peut pas plus de temps, mais on aura l'occasion d'en reparler demain.
Bah écoute, merci en tout cas de cet éclairage.
Merci d'être venu.
Est-ce que je pourrais revenir?
Toi non, par contre.
Est-ce que je peux prendre une viennoiserie?
Ça oui.
Est-ce que je peux faire un câlin à la dame qui est là? Elle me plaît bien, la dame, elle est jolie.
Ça va être, faut voir avec elle.
La dame, elle est gentille, elle est jolie, j'aime bien.
Bien. Merci Ludo pour ce petit retour et puis on va continuer notre enregistrement.
Super.
Parle-nous de tes passions.
T'aimes bien les elfes et les nains? C'est quoi que tu nous as dit, Marius, tout à l'heure en intro?
Tu fais des princes et des princesses avec tes matières, donc c'est ça.
Donc je vais présenter Margot peut-être, okay, quand même, parce que là on rigole, ouais, mais à un moment il faut être un peu sérieux et arrêter de déconner.
Vas-y,
quoi.
C'est
merde, c'est
Ludo.
Donc, on est en présence donc de Margot. Margot Leïres, est-ce que je prononce bien,
oui,
Margot?
Oui, c'est bien.
Ah, c'est bien. Hein. Et Margot travaille donc avec Alex Nicole, donc le gourou, le dieu, quoi, en fait. Hein,
ouais, c'est mon dieu.
C'est ton dieu, hein, je crois. Hein. c'est le grand organisateur donc du Festival du Film Fantastique, et d'un tas de choses à côté. Et donc Margot l'assiste à la fois dans l'organisation du festival, mais également à un tas d'autres manifestations, comme par exemple la Zombie Walk de Rouen, qui a eu lieu. Donc,
le 31
samedi,
octobre.
31
ouais,
octobre. Et puis également, Margot, tu participes avec. Je crois que tu travailles, tu es salarié. Ou pas salarié, je ne sais plus d'ailleurs. Tu n'as pas un statut particulier Il ne te file pas un brousouf. Il file pas un statut brousouf, d'esclave, quelque chose comme ça. Même pas un sou, rien du tout. C'est vraiment purement bénévole. Ouais.
Et là, non, il la sort juste aujourd'hui de la cave, mais sinon, il retourne.
Bref.
Petite patou.
Déjà tout. Alors, dis-nous un petit peu ton rôle là dans tout ça, et surtout, déjà pour commencer, avec le festival lui-même.
Alors, moi, je suis salariée de l'association Night Legend Pictures depuis le 1er septembre, en fait, de cette année, 2015. Le but, c'est que je sois le bras droit d'Alex.
Oh la vache,
ouais.
Ça fait pas peur, ça?
Si.
C'est
émotion. Le bras droit de Dieu.
Bah oui, quand même.
Tu vois.
T'es un peu l'ange Gabriel, quoi.
J'ai les cheveux qui enflent, c'est cool. Donc, sur le festival, je m'occupe de tout ce qui est logistique. Et je remplace le gourou quand il n'est pas là.
D'accord.
C'est
dire tout le temps, parce qu'en fait, il fait rien.
En fait, il n'est jamais là, parce qu'il n'est pas là aujourd'hui.
Si, il était là tout à l'heure. On l'a vu, non?
Ce matin, il était là, mais...
Ouais, voilà, en fait, on se croise. Il était là ce matin, moi, j'étais pas là. Voilà.
D'accord.
Il ne peut y avoir qu'un seul dieu sur le festival. C'est le problème.
Et alors, dis-nous un peu l'organisation d'un festival comme ça, comment ça se passe?
Qu'est-ce qui t'arrive, Marius?
Parce que le micro...
J'ai un peu de mal à...
Donc, plus ça va, plus la voix se bêche.
Sinon, je parle comme ça.
C'est bon.
Il faut qu'on t'entende bien, en fait. Ouais, c'est parfait, là.
On l'entend bien.
Allez, à toi. Fais-nous
rêver. Je me souviens même plus de la question.
Je disais, alors raconte-moi un peu.
C'est pas grave, ta réponse passera quand même.
Le quotidien d'un festival, c'est-à-dire l'organisation d'un festival, ça se passe comment? Ça se prépare combien de temps à l'avance?
Voilà.
Bref.
Ça se prépare un an à l'avance, en fait. On en finit un, on prépare le suivant. Le
prochain, d'accord. Ouais.
Après, on commence vraiment. On a des partenaires qui sont réguliers, en fait. Tous les ans, on les retrouve. C'est quelque chose de pérenne. Donc, les partenaires, on les a déjà. Le but, après, pour nous, c'est de trouver des mécénats.
Et ça, c'est, j'ai cru comprendre, c'était compliqué.
C'est compliqué.
Et puis, non seulement de les trouver, puis après de recevoir les sous. Est-ce que j'ai bien compris? C'est pas toujours facile.
Oui.
Il y a la promesse, et puis il y a la. Voilà, quand ça tombe vraiment, quoi.
Et après, il y a différents types de mécénats. Il y a des mécénats financiers, bien sûr. Après, il y a des mécénats, par exemple, là, à l'Étoile. Enfin, voilà, c'est quelque chose, c'est le lieu. Ouais. On a,
L'Omnia aussi, comme partenaire.
L'Omnia, ouais. Qui est le partenaire. Et puis, le Gibier de Potence, qui nous accueille aussi.
Qui est la Romerie en bas du boulevard
voilà,
des Belges.
Voilà, en bas du boulevard des Belges.
Qui est un peu votre QG.
Un peu, ouais. C'est là que j'ai rencontré Alex, en fait.
D'accord. On voit déjà, c'est parti sur de bonnes bases. Ouais.
Et partenaire des boissons aussi, d'accord.
Mademoiselle est dans l'alcool, donc.
Non, mais il y a du coca aussi, hein. Et du Perrier, bien sûr.
Et après, vous avez des subventions des collectivités territoriales, c'est la mairie, le département, la région
Alors, on est beaucoup suivi par le département, parce qu'en fait, depuis l'année dernière, on a créé une maison montée qui est réservée. Qui est surtout axé sur les jeunes, en fait, les enfants. Donc ça, c'est le département qui finance. Mmh. Et tous les ans, en fait, on peut nous retrouver aux rencontres jeunesse du département, voilà, pendant les vacances de la Toussaint. Après, la mairie, c'est notre partenaire dans le sens où on a le lieu là, à l'Étoile. On fait aussi partie des Azimuts. Bon, cette année, ça s'est pas fait pour des raisons, voilà. Parce que on devait être à la soirée
de lancement mercredi, ouais.
Voilà. Après on a la métropole, on espère l'avoir l'année prochaine. Après faut aller chercher, faut convaincre surtout.
C'est-à-dire que toi t'es surtout spécifiquement, tu t'occupes surtout de ça, non? C'est la recherche de partenaires, c'est vraiment le cœur de ton activité.
Voilà, moi je vais chercher les sous. Je vais taxer, en fait.
Tu vas taxer. Oui. Ouais. Oh, attends, excuse-moi, je t'interromps, mais je vois qu'il y a un jeune drogué qui s'approche de notre table. Il s'appelle Mathieu Collet, donc je précise tout de suite. Hein. Attention à toutes les forces de l'ordre. Mathieu Collet est dans la place. Mathieu Collet est dans la place. Excuse-nous. On t'interrompt, mais tu sais, c'est important. Hein. Je veux dire, il faut tout de suite. Faut arracher le mal à la racine, hein, sinon t'es emmerdé jusqu'au bout.
Il
hein.
a encore foiré.
Et donc, oui, donc on disait le.
Oh mais quel connard!
Oh, il est d'enfer, hein, c'est bien. Oui,
il est bien celui-là.
J'aime bien ton jungle, en fait.
jungle. Allez, reprenons.
Pardon,
excuse-moi,
Margot, on se dissipe. Et donc, tu disais, la métropole, donc, c'est un partenaire que vous courtisez depuis un moment ou...
On la courtise vraiment depuis un an.
D'accord.
Parce qu'il y a des lieux intéressants que nous, on pourrait exploiter, par exemple. Sans le citer, un grand cylindre bleu.
Oh, je ne vois pas du tout de quoi tu veux parler.
Voilà. Non, à 360 degrés, non, voilà.
Nous ne le citerons pas, bien
donc,
sûr.
Ouais, ça, c'est des lieux qu'on courtise, en fait. Ouais.
Dans quel sens vous courtisez ce lieu-là?
Déjà, pour l'espace qu'il a. Ouais. D'accord. En fait, c'est quelque chose d'assez particulier aussi,
pour une projection de quelque chose.
Non, pas forcément. C'est plus, en fait, avec Alex, on travaille vraiment beaucoup sur de la mise en scène, de la scénographie. En fait, comme la maison hantée, on essaye de créer des petites scènes. En fait, c'est vraiment du spectacle quelque part. En fait, c'est vraiment des mini spectacles. Qu'on essaye de recréer un univers en fait qui est pas forcément connu pour les enfants mais aussi pour les grands. Ce serait bien de faire des choses pour les grands.
J'ai vu qu'il y avait des trucs très sympas, notamment il y a des événements que vous organisez par exemple à l'opéra. Ça avait l'air d'être très très sympa cette place. Il y a des visiteurs qui viennent, si j'ai bien compris, des visiteurs qui viennent visiter l'opéra de nuit et bien sûr pendant leur visite.
Il se passe
des trucs. Donc vous avez organisé.
C'est génial. Ça c'est pas quelque chose qu'on a.
Ouais, ça, c'est normal.
Vous l'avez visité.
J'allais dire quoi comme truc.
Mais en fait, on l'a pas organisé. Ça c'est à l'initiative de l'opéra depuis quelques années. Déjà, ils ouvrent aux étudiants la nuit. Et les étudiants font une visite à la lampe de poche, en fait. Et donc cette année, on a participé, on s'est planqué dans l'opéra, déguisé.
C'est-à-dire zombie, enfin un truc comme ça.
Alors il y avait du zombie, Il y avait, moi j'étais, par exemple, je trimballais mon enfant, il y a mon enfant là dans un bocal à l'entrée.
Ah, ça, oui. Faudrait que tu me fasses voir ça.
T'as pas pris de photo. Qu'est-ce que tu penses du déguisement de Marius aujourd'hui?
Alors attention, parce que je crois qu'il y a un pirate qui s'approche là. Ouh là 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 là.
Il surveille.
Il se surveille, crois-moi.
Il
n'y
a pas des Caraïbes.
Non, en fait, c'est que... un petit peu dans l'esprit de la maison de l'horreur à Paris, en fait.
Tu parles du pirate ou tu parles de qui là?
De Marius. On est toujours sur Marius.
C'est malin, il fait du boudin.
Ah non, il revient le pirate.
Reviens, pirate, reviens.
Et le pirate, il drogue aussi, non? C'est un copain de.
Donc, le pirate, je précise, qui a fait partie du comité de sélection également.
Qui est un bénévole assidu, en fait.
Qui s'appelle Julien.
Voilà.
Voilà, exactement.
Donc, Ludo connaît tout le monde ici.
Dédicace à Julien, donc.
À notre bébé.
Big up bébé.
Et donc, oui, donc ce genre d'événement, tu disais, donc, pour revenir sur l'opéra, donc le bébé, donc tu étais avec ton bébé.
Et... Voilà, et je me trimballais, et puis j'arrivais derrière les gens, et puis quand ils se retournent, c'est vachement rigolo. Bon, après, il faut se retenir de rire, quelque chose que je n'arrive pas à faire encore.
Oui, parce que t'as blâmé le smile.
Mais non, mais on avait des loups-garous. Parce qu'en fait, c'est des recoins de l'opéra que le public ne voit pas, et du coup, c'est des petits recoins. Donc il y a des loups-garous qui sortent, tout ça, c'est assez rigolo.
C'est ça, le concept est marrant en tout cas.
Avec panache en fait. Ouais, voilà, on aime bien crier, par exemple. Moi je sais que.
Panache, j'aime bien de... crier. Bon, combien d'arrêts cardiaques alors lors des.
Alors à l'opéra, je trouve que ça a été soft. La maison hantée, on a plus de crises de panique en fait.
C'est vrai, oui, quand même.
Ouais, parce que moi je sais que après deux jours de maison hantée, j'ai plus de voix, par exemple. Je suis aphone en fait.
Mais je ne pourrais pas moi ce genre de truc. Je pense que je serais.
Ah bah moi je veux bien faire zombie, mais il est hors de question que je rentre en tant que visiteur.
Voilà, c'est ça, le faire en tant qu'acteur.
Ça doit être marrant, ça ferait le faire, ça doit être
visiteur,
rigolo à faire.
Visiteur, non, moi je pourrais pas. Parce que je
c'est accès tout public, ouvert toutes les semaines.
Tous les gamins, ils ressortent sur le dos.
En fait, c'est une maison hantée itinérante. Donc il faut que. En fait, c'est pareil, ça.
Ah,
faut
c'est une caravane.
Des lieux.
Oui, c'est notre manouche à nous, lui. Hein.
Ah, d'accord.
Il y a le hérisson.
Je comprends mieux la chemise, du coup. Bah
allez, voilà, je te la parle.
On doit sortir bien fort quand même sur les haut-parleurs, je pense.
Et donc, parle-nous aussi d'un autre événement qui est, lui, pour le coup, annuel, qui est la Zombie Walk, et dont tu t'es occupé de l'organisation, de la sécurité.
Ouais, en fait.
Explique-nous un petit peu comment ça s'est passé.
Donc, on a organisé, Alex et moi, la Zombie Walk, et moi, je coordonnais sur le terrain, en fait.
D'accord.
C'est moi qui étais présente. Et qu'est la Zombie Walk? Oui.
Alors, la Zombie Walk est un carnaval festif de gens déguisés en zombies ou survivants. Voilà. Donc, c'est une fête.
Ah, il y a aussi des survivants.
C'est une fête. Hein. On déconne pas, on tranche personne, on bouffe personne, surtout. Il n'y a que Marius qui a le droit de bouffer.
Et cette année, il y avait beaucoup de participants.
Comment ça s'est passé alors? Oui, effectivement.
Alors, pour cette année, en fait, on a dû faire face à plusieurs choses. C'est déjà c'est la première année que nous, Night Legend Pictures, on l'organisait. Donc, il faut succéder forcément à l'organisateur de l'année d'avant, ce qui est toujours un petit peu délicat. Ça met une pression en plus. Ensuite, on fait un appel sur réseaux sociaux. Principalement Facebook, avec l'événement, l'heure, la date, les consignes qui sont très importantes. Et après, il faut faire face aux commerçants et aux badauds, en fait. Donc nous, cette année, on a pris le parti de passer chez tous les commerçants du trajet. On leur a donné une lettre.
Pour les prévenir et tout.
Voilà, ouais. On leur a expliqué ce qui allait se passer.
Comment ils réagissent
Et alors, ils sont super contents, en fait. Parce que le retour qu'on a, c'est que Rouen, c'est pas une ville très animée.
C'est pas une ville morte.
Oh, Marius.
Elle est bien, non?
Elle est pas mal.
Oui, elle est pas mal.
Et du coup, les commerçants, au contraire, ils attendent, blague, quoi. Hein. Ils attendent ça, quoi.
Parce que c'est vrai qu'a priori, le thème, c'est pas forcément consensuel, mais maintenant, le zombie, en fait, en même temps, le zombie, on a bouffé toutes les sauces maintenant. Donc, ouais. Non, mais c'est vrai, donc, ça aurait fait 175 à mon époque. Ouais. C'était autre chose.
Non, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui commence à rentrer un petit peu dans les mœurs, quoi. Mais...
Ouais, mais du coup, c'est quelque chose aussi dont les gens se lassent.
Aussi, peut-être.
Vite, oui.
En fait.
Et d'un point de vue pratique, donc, purement logistique.
Tout ça pour finir, donc, vous n'avez pas eu l'affluence que vous espériez, c'est ça?
Bah si, on a quand même eu, bon, on a toujours sur Facebook, on devait avoir peut-être un peu plus de 200 personnes d'inscrites. Ah, okay. Forcément, on en a, je pense qu'à tout péter, on en a eu 150.
Ah, ce qui est déjà bien.
Mais après, on a eu une révolution cette année, c'est qu'il y a eu des mini-zombies, quoi. Des gamins de 5 ans qui venaient avec leurs parents et tout, et ça c'était vraiment chouette parce que c'est la première année que ça arrive.
Des petits zombies.
Donc ils nous ont suivis.
Et oui, les enfants meurent aussi.
Les enfants meurent aussi.
Mais ça c'était chouette. On avait des petits squelettes qui se trimbalaient parmi les zombies.
Cet épisode est sous le signe de la joie de vivre.
Mais comment non, mais et pas d'incidents à déplorer, pas de gens qui s'offusquent de.
Après, il y a. Il y en a
bon
toujours. Les commerçants, en général, ils sont plus partisans de la zombie-vole qu'autre chose. D'accord. C'est surtout après les badauds. Mmh. Tous les gens en terrasse avec des jeunes enfants. Après, cette année, on a eu de la chance. Mmh. Comme on a eu des petits enfants avec nous, ça passait beaucoup plus en fait en ville. Ça permet de montrer que c'est accessible quand même à tous les âges. Quoi. Donc après, le but, c'est pas de perpétuer le zombie non plus tous les ans. Hein. On aimerait bien faire une fantastique walk quand même.
Ah oui,
avec un design un peu des
voilà.
trucs de classe.
Et ça ouvre un champ des possibles beaucoup plus vaste.
Oui, avec le prédateur par exemple.
Oui, entre autres.
Avec le prédateur.
Non, mais t'as plein de choses. Ouais, du Freddy. Freddy, peut-être tu iras te promener avec tes griffes de la nuit.
Et donc toujours le même, toujours le même.
C'est pas la zombie ou
toujours le même itinéraire.
Comment
vous déterminez
Alors nous, on a une consigne de la ville qui est de privilégier les rues piétonnes, forcément. Déjà pour une raison de sécurité, parce que la sécurité, elle est quand même très importante dans un événement comme ça. Et ensuite pour une question de pratique, parce que et puis même de retour en fait, si on bloque la rue,
la circulation,
les gens vont nous détester. Le but c'est de s'amuser et d'amuser les gens qui sont sur notre passage.
D'accord.
Et après niveau sécurité, nous cette année on avait plus d'une dizaine de bénévoles qui encadraient tout le cortège avec des gilets jaunes, et on a comme ça prévient les débordements, même si au départ, il y en a pas quoi.
Il y en a pas, ouais.
Oui, bien sûr.
Mais on sait jamais. Ah,
oui, c'est ce qui m'a fait le plus peur, le mec en gilet jaune.
Un mec en gilet jaune.
Avec une chemise manouche en dessous, c'est ça. J'imagine la vision d'horreur.
Et encore, j'ai pas ma gratte. Hein.
Et pour le coup, pour revenir sur le festival du fantastique, du court métrage, tu étais hier soir à la projection.
Oui.
Tu as été au comité de sélection, à la soirée de projection. Est-ce qu'hier soir, il y en a un parmi les films que tu as vus que tu retiens en particulier ou tu ne souhaites pas te prononcer ?
Moi, j'avoue que j'ai eu un coup de cœur pour Le Sceau de la Corruption.
D'accord.
Mais c'est uniquement parce que quand on a les présélections, en fait, j'étais vachement surprise d'entendre des voix connues. Des doubleurs connus.
Ah, c'est ce que tu me disais, Gérard
Darbois, etc.
Ouais, ça a été assez impressionnant en fait. Et du coup, j'ai un petit coup de cœur. Mais j'avoue que mes deux coups de cœur, vraiment, c'est ce soir.
Donc, d'accord. Donc, teasing, ça donne envie de.
Tu peux donner les titres de ces deux coups de cœur là?
Oui, parce que.
Il y a Tomber ma neige.
Oui,
qui est un film d'animation qui est super chouette.
Très Tim Burtonien.
Ouais. D'accord. Et Frankenstein.
Frankenstein,
que tu as cité tout à l'heure.
C'est de l'humour tout comme j'aime.
C'est les deux que Ludo a cité, oui.
Comme quoi, on verra demain
le
palmarès du festival à ce moment-là.
Ouais.
Quoi, puisque c'est ce soir, donc vous allez
décerner les derniers courts-métrages avec
le palmarès.
Très bien. Super.
Merci Margot.
Merci Margot.
Merci. C'était pas si compliqué que ça.
Franchement, c'est pas si compliqué.
C'est vraiment
bah non.
Et on mord pas non plus.
Heureusement qu'il y a Ludo entre eux.
Et même.
Attends, les grandes dents.
Et même que t'as le droit à une viennoiserie, parce qu'à chaque fois quand on passe, on a le droit à une viennoiserie.
Ah, c'est trop gentil, je prends un pain au chocolat.
Parfait.
Merci Margot.
Merci. Et bon courage pour la suite.
Oui, je vais prendre du café, puis c'est
là. Salut
Margot.
On avait dit pas le physique et pas les vêtements. Alors là, Marius, il y aurait plein la tronche.
Il faudrait que tu m'appelles ton nom.
Alors,
alors en alphabet,
B-I-E-L-I-N-S-K-I.
On accueille
B-I-E-L-I-N-S-K-I.
On accueille Tom Bielinski.
Ouais, un truc comme ça. Je sais. Il faut que je l'écrive, sinon.
Je sais.
Ah ouais, c'est la merde.
Tom Bielinski. Donc on accueille donc à l'instant Tom Bielinski est avec nous.
Bonjour.
Bonjour Tom.
Bonjour.
Alors Tom est avec nous aujourd'hui pourquoi ? Eh bien, Tom est avec nous.
Tu vas nous le dire.
Tom, qu'est-ce à dire?
Pourquoi qu'il est là?
Tom Bielinski est le réalisateur du court-métrage qui est passé hier, qui a fait sensation, je crois qu'il a déjà fait sensation auprès du comité de sélection, mais également auprès du public, d'après ce que j'ai pu en juger, étant dans la salle. Donc, le plus long court-métrage de la sélection, je crois, puisqu'il fait à peu près 23-25 minutes.
Il fait 24 minutes avec le générique.
Voilà.
C'était bien dans la bonne fourchette.
Exactement. Et le titre de ce court-métrage, c'est Le sceau de la corruption.
Et donc, dont nous a parlé Margot.
Dont nous a parlé Margot Le Hires, donc l'organisatrice.
C'était de la merde.
Alors Tom va nous parler un petit peu de son court-métrage, de l'histoire, etc. Juste pour préciser quand même que ce court-métrage réunit des, je dirais, une pléiade de gens assez prestigieux en fait.
C'est vrai.
Puisque alors j'ai notamment parmi les héros principaux Damien Boisseau.
Oui.
Alors Damien Boisseau, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, est comédien doubleur.
Oui.
Et notamment, il double les voix donc d'Edward Norton, de Matt Damon également.
C'est ça.
Voilà.
Il a fait le petit garçon aussi dans E.T., Elliot.
D'accord. Voilà. Ah oui, mais quand il était plus jeune?
Bah quand il était plus jeune.
Remarque,
tu veux dire forcément.
En 82
non, il l'a fait cette année, c'était juste un kiff comme ça.
Voilà, c'est ça.
T'en as des bonnes questions. Je vous préviens, si vous continuez comme ça, je quitte cette table.
Non, tu veux dire comme ça.
Moi je te dis tout de suite, Nico, je quitte cette table.
Et donc Damien Boisseau, un des rôles principaux. Le deuxième rôle, c'était tenu par Benoît Alleman.
Oui.
C'est ça. Mmh. Et Benoît Alleman, c'est Morgan Freeman à l'écran. Et puis, je dirais, last but not least, c'est Gérard Darbois qui est le conteur. Et Gérard Darbois, c'est Buzz l'éclair, c'est Indiana Jones, c'est le génie d'Aladin. Alors, quand on dit le génie d'Aladin, c'est également. En fait, c'est la voix de. Comment il s'appelle de
Robin Williams,
Robin Williams
en français,
c'est tu.
Oula, je sais pas. Répétez la question.
Tu es prié de quitter cette table dès maintenant.
Bonne journée. Au revoir. Voilà. Au revoir.
Alors, Tom le sait peut-être pas, mais on a aussi des doubleurs autour de cette table. Nico, par exemple, fait très bien. C'est lui qui fait le grand-père dans Les Simpsons.
S'il te plaît, non. Peux-tu nous faire plaisir?
Moi, j'imite Marius qui imite le grand-père des Simpsons.
Okay. Alors, allons-y, c'est parti.
Non, je sais pas.
Allez, action.
Merveilleux, comme tu vois, on a vraiment des talents ici.
C'est du haut niveau.
Balancer les cartes.
Si tu as besoin d'un vieux grand-père asthmatique, il est juste à ta gauche.
C'est ça. Okay.
Donc, est-ce que tu. Alors, voilà, moi.
Et poisson de marchand, une marchande de poissons à la criée, c'est moi.
Okay. Allez.
Ah oui,
c'est une poisson de marchand, elle a dit.
Ça va, Freddy. Ces griffes de la nuit, t'hésites pas.
Ça te va pas de boire du café quand on enregistre.
Alors,
laissons notre.
Voilà, parce que le pauvre,
il les a parlé.
Alors, avant toute chose, donc. En deux mots, donc le sceau de la, non pas de la conjuration comme j'ai vraiment, mais j'ai vraiment, c'est le sceau de la procuration. Non, c'est pas le sceau de la procuration, c'est le sceau de l'expédition. Non. Aidez-moi.
La corruption.
Le sceau de la corruption. Bon. Donc, qu'est-ce que raconte le sceau de la corruption?
Tu n'as pas vraiment aimé, tu nous disais.
Un film que j'ai profondément détesté.
Voilà.
Absolument pas.
Moi, je suis là pour les croissants. Hein.
Alors, faut y aller parce qu'il n'y en aura plus pour tout le monde. Donc, qui merci. En fait.
Là, il reste alors, un
peu. Si on laissait
un peu parler.
Non, laissez notre invité présenter son film.
Ça fait un quart d'heure.
Parce que toi, en tant que toi, Ludo,
on connaît toujours rien du film.
Hein. Allez,
c'est ça qui est le truc.
Ludo, Bielinski. C'est ça.
Bielinski.
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 Oh, Marius.
C'est polonais.
À toi, Tom.
Donc,
le pitch.
Attendez. Le pitch. Donc, on est dans un univers médiéval fantastique qui est inspiré un peu d'un jeu de rôle qui s'appelle Warhammer, pour d'accord. ceux qui connaissent. Mm-hmm. Et en fait, on est dans un univers très sombre où il y a une maladie qui s'appelle le fléau, et qui est envoyée par les dieux du mal. Et donc l'Église est très importante, et c'est un des piliers de la société pour que ça tienne la route. Et donc on suit deux personnages, un personnage qui s'appelle Wolfgang et qui est inquisiteur. Et il est chargé en fait par son Église de traquer un hérétique, hein, boulot classique pour notre ami. Et en fait, il se trouve que cet hérétique en question, c'est le prêtre. Et le prêtre, c'est son mentor et son ami
depuis des
d'enfance. Il le suit depuis l'enfance, ouais. Donc c'est assez classique comme scénario. Et donc voilà, en gros, il va devoir faire le choix. Est-ce qu'il va le tuer ou est-ce que ses sentiments vont prendre le pas sur le devoir? Alors, tatin, je
pour le savoir.
Moi, je voulais juste ajouter un truc, c'est que voilà, parce que sur la forme, par contre, c'est assez spectaculaire.
Merci.
C'est ce qui est vrai, puisqu'en fait, le film alterne, alors à la fois des séquences qui se passent, je dirais, à un instant T, et des séquences de flashback, notamment une bataille entre une armée et des créatures qui sont contaminées par le fléau.
Voilà, c'est ça, qui ont des mutations de partout, des yeux sur la tête, des croûtes et autres joyeusetés. Voilà.
Alors ce qui est assez intéressant, moi ce que j'ai, au niveau visuel, bon, c'est très esthétiquement, je trouve que c'est très
très solide. C'est ambitieux en tout cas,
quand on
entend la vue de l'extérieur, enfin on se dit comment on se lance dans un truc comme ça.
Je sais pas pourquoi.
Le film a beaucoup plu aussi parce qu'en fait justement visuellement il y a pas mal de références visuellement. C'est très alors codifié, c'est peut-être pas le terme, mais en tout cas c'est très référencé.
Ah oui, c'est très très classique dans le sens où on prend les codes du genre du cinéma américain et de ce genre-là, heroic fantasy, et voilà, on essaye de faire ça bien. Après on rajoute sa petite patte, sa petite touche personnelle, mais voilà.
Est-ce que alors avec des personnages en plus très très typés. Mais typé sur les personnages
méditerranéens.
Là, tu vois, je m'excuse déjà. Ils vont commencer à être lourds. Ouais. C'est terrible.
Moi, je croyais que les orques et tout ça, c'était plutôt nordique. Bon, non, ça n'importe quoi.
Et en fait, par exemple, le personnage principal, qui est le personnage de l'inquisiteur, qui est joué par Damien Boisseau, en fait, la mise en scène le met énormément en valeur et justement le joue sur ses codes visuels, puisqu'en fait, il porte un grand chapeau,
un peu à la Van Helsing, en gros.
Voilà.
C'est ce genre de personnage, Solomon Kane.
J'allais dire, moi, j'ai vraiment vu Solomon Kane, Robert Howard, c'est-à-dire un personnage, l'inquisiteur puritain, façon effectivement 18e, 17e, 18e américain, et très réussi, puisqu'évidemment tout est en. Tu as joué beaucoup sur les postures, les attitudes, et ça marche très très fort, je trouve. Mais ça marche fort parce que les acteurs, c'est des acteurs.
Il est derrière comédiens, d'ailleurs l'acteur, non? Il y a un grand chapeau.
Avec un grand chapeau derrière. J'espère que tu fous la cible. Et du coup, comment on en vient à avoir des acteurs comme ça dans un court métrage, en fait? Est-ce que
on
frappe aux bonnes portes ou c'est le hasard qui...
C'est le quasi hasard, en fait. Donc pendant que j'étais en train d'écrire le scénario, déjà de base, ce qu'il faut se dire, et ça c'est un conseil que je donne à tout le monde, tous ceux qui veulent faire quel que soit le projet ou le film, ne pas se mettre de limites, ne pas se dire ah non, lui il est trop connu ou j'ose pas, vous y allez, et si c'est un non, c'est un non, tant pis, ou si vous n'avez pas de réponse, enfin voilà. Mais au moins vous aurez essayé. Donc c'est déjà l'état d'esprit dans lequel je m'étais mis. Et donc j'écrivais le film et je faisais des recherches à côté sur internet. Soit de gens connus ou même des courts-métrages que je regardais ou des web-séries ou des trucs comme ça. Et là, je suis tombé sur un court-métrage qui s'appelle Garde-fou et qui a été fait par Slimane Baptiste. Je ne sais pas si vous connaissez. Il fait partie de l'équipe du Visiteur du Futur.
D'accord.
Voilà. Et il avait fait ce court-métrage.
Frenchner,
tout ça. Faut connaître. Mais voilà.
François Descraques.
François Descraques, tout ça.
Mais ça te parle pas, toi, manifestement, je veux dire.
Et donc, il était super dans ce rôle-là.
Marius, c'est honte de sa mère, là. Je le vois.
Attendez, coupez.
Oui, donc, en gros, il jouait super bien le rôle d'un psy, on aurait dit un Père Noël, quoi. Et donc, je me suis dit, ah, ça va être un super méchant. Parce que je voulais que le méchant, justement, soit
t'es bonhomme, enfin en tout cas jovial ou pas, jovial mais
pas jovial mais dans le sens on préfère sauver le méchant que le gentil. Voilà, je voulais vraiment mettre beaucoup l'accent sur le méchant parce que apparemment c'est ce qui fait la réussite aussi d'un film. C'est si vous réussissez votre méchant, c'est bon pour le reste. Donc voilà, donc j'ai Benoît Hamel, c'est comme ça que je l'ai vu. Après je l'ai harcelé pendant 2 ans.
Enfin, il a dit oui, d'accord, ok, d'accord, c'est bon.
Il a fait ok, ouais, bon, c'est bon. On va tourner ton truc là. Voilà.
Mais vite, hein.
Et ensuite, pour Damien, c'était les castings que j'ai fait, tout simplement. Et il a répondu sur cinéaste.org. Donc, deuxième surprise. D'accord. Donc là, c'était le hasard. Et pour Richard Darbois, je voulais absolument la voix d'Indiana Jones dans mon film.
D'accord.
Je suis un fan absolu d'Indiana Jones. Et donc,
ça, je connais, moi voilà. aussi.
Et donc, j'ai réussi à avoir le contact grâce à Damien et j'ai envoyé une lettre d'amour à Richard Darbois
qui a craqué, qui est tombé sous le charme et qui n'a pas su dire.
Et il m'a fait un petit vers l'infini et au-delà aussi.
Ah, quand même.
Parce que la monteuse du film voulait en fin de l'époque voulait la voix de Richard pour ça.
Ouais, voilà. D'accord.
Donc, mais je l'ai pas vu, je l'ai jamais rencontré Richard Darbois parce qu'il est en Guadeloupe, je crois, un truc comme ça. Oui. Et je l'ai juste eu par mail.
D'accord.
Je lui ai envoyé le texte.
Et t'as fait la voix.
Parce qu'il a un studio chez lui, quoi. Il a tout ce qu'il faut, donc il n'y a pas besoin de bouger.
Mais d'accord. Ouais. Au-delà des voix, parce que la question c'était comment tu arrivais à voir ces gens-là et tout, mais même il y a plus que ça, parce que j'ai cru comprendre que à un moment le méchant de l'histoire porte une armure. Si on en a parlé hier soir, une armure assez imposante qui est en fait rien d'autre qu'une armure qui a été prêtée par la production de Jeanne d'Arc, non c'est ça ?
Ouais, en fait, pas la production de Jeanne d'Arc. En fait, c'est un grand costumier qui s'appelle Maratier et c'est un des plus grands costumiers en Europe, je crois, pour le cinéma et le spectacle, tout ça. Et donc je suis allé là-bas pour voir les armes, les armures, tout ça pour en louer quoi. Et j'y allais assez souvent. Et donc je crois que le gars m'avait à la botte et à la bonne, pardon.
À la botte. Toi tu l'avais à la botte.
La bonne botte.
Voilà, il m'avait à la bonne. Excusez-moi. Et en fait le jour J où j'étais pour aller prendre cette armure là, c'est pas parce que c'était l'armure de Luc Besson, enfin de Jeanne d'Arc de Luc Besson, mais parce qu'elle était classe quoi.
Ouais, c'est ça qui correspondait mieux.
Elle faisait très heroic fantasy.
Très impressionnante à l'écran aussi.
Et il m'a fait. Donc je lui fais je vous dois combien ? Et il me fait bon, allez, faites-moi le prochain Seigneur des Anneaux, c'est gratuit.
Oh la classe !
Wow,
c'est la méga classe,
classe.
C'est
bien. Donc, par contre, coup de pression du coup.
et c'est foiré. Voilà.
Mais voilà. Du coup, c'est gratuit quand même.
Ouais, mais c'est gratuit quand même, donc ça va. Et je l'ai rendu en bon état.
Donc en fait, c'est aussi là qu'on voit que c'est un ensemble de. Je dirais de rencontres et de hasard et aussi et un peu de culot quand même parce que
tout
faut
simplement.
Quand même y aller aussi c'est pas tomber tout cuit dans le bec quand
c'est
même
c'est ça faut pas avoir peur en fait et c'est surtout que j'avais pas le choix j'ai des ambitions dans le sens où j'ai envie de faire les choses bien même si c'est très classique même si c'est très cadré j'ai envie d'aller au maximum de ce que je peux c'était le défi en fait c'était pour savoir si j'étais fait pour ce métier parce que c'est
d'accord.
Mon premier court métrage
c'est quoi ton parcours personnel avant ça pour comprendre comment tu es arrivé à ce court métrage
je commence depuis l'enfance
c'est possible de commencer un peu avant parce que ça en intéresse
c'est là que ça nous intéresse
mes parents m'ont conçu
à 3 ans on m'a offert une caméra
alors en fait je faisais des études dans l'agriculture parce que j'étais mauvais à l'école mais moi je voulais faire du théâtre on m'a dit que ça n'existait pas les BEP théâtre donc donc je m'étais résigné à un moment pendant 4 ans j'ai fait dans l'agriculture et un jour c'est tout con je suis allé à Cannes où j'allais assez souvent en vacances et j'ai vu Pirates des Caraïbes voilà et ça a été mon déclic pour que je recherche des écoles de cinéma parce d'accord. Que mes parents connaissaient absolument pas ce milieu là et tous les voilà donc je suis juste allé sur internet merci internet et j'ai tapé à 3h du matin en caleçon école de cinéma et il y avait une super bande annonce d'une école et tout et j'étais tout fou et voilà donc j'ai tout fait pour aller dans une école donc j'ai fait l'ESRA Paris et à l'ESRA Paris j'ai fait 3 ans là-bas et dès la deuxième année j'ai commencé à écrire ce film parce que je voulais faire un film d'école à la base mais je me suis rendu compte que les exigences étaient trop grandes pour même une structure scolaire
comme l'école.
J'ai décidé de faire tout seul et donc on a fait ça en autoproduction. Et une grande partie de l'argent qui était de ma poche, donc maintenant je suis pauvre.
Voilà. On reprend un croissant.
Voilà, Non mais je vais prendre la boîte à la fin, je vais prendre un petit doggy bag.
Ouais,
et une chose intéressante, c'est que tu as eu un financement par Ulule, je crois.
Et par Ulule. La moitié par Ulule et la moitié par.
Tu as réussi à mener la campagne jusqu'à son terme. Je crois que c'était 8000 euros que vous vouliez avoir.
8000 balles. Ouais.
Et vous avez obtenu un peu plus
8250.
Avec le casse de la Banque de France de Dijon, je crois que le compte y était.
C'est ça. Mais qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, mais après il y a eu beaucoup aussi de dons de la famille en Pologne ou des trucs comme ça, qui ont donné. Et nous après on a mis sur des grosses sommes aussi sur Ulule. Enfin bon voilà.
D'accord.
Mais on est arrivé au terme du truc quoi. Et c'est assez chouette. Et après on a mis 4 ans en tout. Depuis d'accord. L'écriture jusqu'à aujourd'hui, 4 ans avec plus d'une centaine de bénévoles, tous bénévoles.
Nos d'accord. Auditeurs n'ont pas l'image, pour cause, mais on est face là à un jeune réalisateur, et on peut merci. Encore dire ton âge, j'imagine.
26 ans.
Arrête, t'as 17 ans et demi, toi, ça va.
Non, c'est ce qu'elle fait croire dans tes
fantasmes, Ludo. Ça, c'est quand je mets le cuir.
Oui, donc, oui.
Donc ça a pris 4 ans.
Reprenons le cours de la discussion.
Ça veut donc dire qu'un truc qui prend 4 ans alors que t'en as 26, t'as commencé ça assez jeune en fait. C'est une ambition qui t'a pris
à 22 ans.
Vers 22 ans, et ça commençait peut-être même à travailler un petit peu avant. Donc c'est un projet assez long.
C'est ça.
Et on en parlait tout à l'heure avec Niklaus qui était là. Donc qui avait mis aussi
4 ans.
On voit que les courts-métrages, ce sont des projets sur de la durée en fait.
Et d'autant plus, c'est un premier projet, j'imagine.
C'est le premier film. Avant, j'ai fait des petits concours pour Géant Vert. C'est waouh!
Ah oui, mais je connais ça!
Ah oui, c'est bien! Putain. C'est un mec connu alors!
C'est bon ça!
En fait, c'est une pointure qu'on a!
Mais alors, Nicolas, ce qu'on a eu avant, nous a dit que son court-métrage, il a été diffusé un petit peu partout dans le monde. Toi, c'est ton premier court-métrage. Est-ce qu'il a fait d'autres festivals que celui-ci?
Alors, j'en ai fait deux autres avant. Il y a mon premier festival où j'ai rencontré ma compagne aujourd'hui, qui nous accompagne justement, qui est là.
Bonjour la compagne.
Mariana. Mais elle est sortie avec moi après le film. En fait, c'est grâce à elle si j'ai été sélectionné à ce festival-là. S'appelle le festival de cours en béton. Ouais.
Cours en béton.
Voilà, cours en béton. Et,
aucun lien avec un
béton,
futur invité.
Juste à côté de Rennes.
Ah oui, d'accord. Okay.
C'est collé à Rennes en fait. Et voilà, donc ça a été mon premier festival, mais c'était hors compétition. Mm-hmm. Et ensuite, j'ai fait un deuxième festival à Cholet. Pareil, il n'y avait pas de compétition. Mais voilà, j'ai fait que ça pour l'instant. Et il y a.
Et donc, le festival de Rouen.
C'est ça. Et avant, j'ai fait des conventions. Le Toulouse Game Show, les Comic-Con et tout ça.
D'accord.
On a projeté un peu le film. Voilà. Mais c'est tout frais, donc c'est pour ça commence à peine.
Il y en a d'autres dans l'année à venir, des festivals
Je vais refaire le Toulouse Game Show, et sinon, pour l'instant, on attend.
Tu te portes candidat ou tu déposes des dossiers régulièrement?
On dépose des dossiers, c'est surtout elle qui dépose les dossiers. Moi, j'ai la flemme, j'en peux plus. J'en ai marre. Mais
je veux tout arrêter.
Ouais, je vais faire jardinier. En fait. Voilà, ça me saoule.
Mais du coup, puisqu'on parle de ça, est-ce que tu vises essentiellement les festivals qui parlent de, enfin qui ont cette thématique fantastique, ou bien tu je sais pas, Clermont-Ferrand?
À la base, je suis inscrit sur une plateforme qui s'appelle le Filmfest plateforme, un truc comme ça. Et pour l'instant, j'ai essuyé que des refus, quoi. Il y a une quinzaine. Donc je m'en fiche en fait. J'envoie partout où je peux.
D'accord.
Et oui, voilà. Oui,
sais-tu à quoi sont dus les refus ou pas? Non, t'as pas de. C'est le truc classique, stéréotypé.
Non,
on sait pas.
On a juste pas sélectionné. Ouais.
D'accord. Peut-être voilà, trop orienté ou trop référencé, c'est possible.
Je pense.
Là, dans une convention comme ça, c'est vrai que, enfin, sur les deux derniers, on a couvert un peu le Courtivore qui tourne à Rouen, et puis This is England ici. C'est vrai que peut-être que c'est pas tout à fait dans la ligne éditoriale de ces festivals, effectivement.
Il doit y avoir de ça, oui. Il y a le genre du film. Oui, je pense qu'il y a de ça. Hein. Ou alors il est mauvais aussi. Peut-être. Hein. Je sais pas. Mais je pense qu'il y a beaucoup de ça. Apparemment, j'ai vu qu'il y avait un autre court-métrage qui avait été fait par un Français d'Heroic Fantasy. Lui, il l'a tourné en anglais. Et il a fait centaines de festivals aux États-Unis.
D'accord.
Donc là, je suis en train d'essayer de le traduire en anglais.
Ah oui. Alors, c'est vrai que Niklaus, qu'on avait tout à l'heure, lui, il a fait une version anglaise, italienne, française.
Oui. Oui.
Et donc, du coup, avec sa version anglaise, effectivement, il tourne dans beaucoup de festivals aux États-Unis, notamment, il a été retenu, effectivement.
D'accord. Okay.
Donc, c'est vrai que c'est une aussi.
Mais lui, il fait les sous-titres ou c'est le doublage non?
Écoute, je sais que sur celui qu'on a vu tout à l'heure, les parties qui sont en italien, je crois, elles sont incrustées.
Oui. Oui.
Mais est-ce qu'elles sont doublées pour l'anglais,
je sais pas du tout. Mais la partie en italien, je sais pas. Non, peut-être que c'est les sous-titres en fait, simplement. Je sais pas. Mais est-ce que le tien est sous-titré déjà? Il y a une version.
Non, justement. Non, voilà. En fait, c'est ça que je cherche.
Ah ben, on va te faire connaître Quentin.
Ah, je veux bien voir Quentin. Parce que
qui est ce Quentin?
Ou Marius.
Ou Marius.
Je ne sais pas de qui il parle.
Quentin de This is England, je pense.
De Quentin de This is England, qui a fait un BTS cinéma et qui s'est occupé des sous-titrages pour tous les festivals. Voilà.
Ça m'intéresse beaucoup.
Et qui est sur
Rouen.
Toi, tu es de Paris?
J'étais à Paris à la base, et puis ensuite l'ambiance là-bas, aussi bien à l'école que l'ambiance de la ville tout court. J'ai pas accroché du tout.
D'accord.
Donc je suis parti respirer en Bretagne.
Ah,
j'ai rejoint mon meilleur ami là-bas.
D'accord. Voilà. D'accord.
parce qu'il s'est fait opérer il n'y a pas longtemps, c'est ça que tu veux dire? Parce qu'il pointe sa compagne du doigt en disant j'ai rejoint mon meilleur ami. Du coup, je me dis c'est vraiment, c'est un peu chelou. Je me dis c'est un peu chelou son truc, mais pourquoi pas? Attends, moi je suis super open, ok?
Les spécialistes,
c'est bon là.
Les spécialistes, Ludo.
10 ans de travail.
Les spécialistes, c'est pas la Bretagne, c'est le Brésil.
Tu as raison, c'est vrai.
Arrête tes bêtises. Alors, du coup, moi j'ai une question.
Ah oui.
Tu viens de faire ton court-métrage sur 4 ans. Oui. Là, d'après ce que j'ai pu retenir avec Nicolas, vous n'avez pas de retour sur investissement.
Non.
Comment, tu ne peux pas en vivre, c'est ça?
Non.
Donc qu'est-ce que tu fais en ce moment?
Je suis au RSA, tout simplement. Non, mais vraiment.
C'est vrai?
Oui, c'est vrai.
Oui, attends,
un vidéo, on se marre. Comme
mais oui. Con.
Déconneur.
Tu crèves la dalle.
Prends un croissant.
Donc,
prends-en deux.
Donc, ouais. En fait, non, vous en fait, un truc comme
c'est,
ça.
C'est important. C'est important comme.
Alors, je vais vous expliquer pourquoi. C'est un choix.
C'est important.
Donc, en même temps, je fais un peu d'animation en centre de loisirs. Parce que je recherche pas de boulot dans l'audiovisuel ou le cinéma en dehors de la réalisation et des films surtout que j'ai envie de faire. Donc c'est un choix plutôt éthique entre guillemets.
D'accord.
Mais c'est aussi parce que j'ai vu beaucoup de réalisateurs qui essayent de vivre tout simplement. Donc qui eux font des métiers dans l'audiovisuel, du montage, et ils font dans la publicité, dans la télévision, tout ça. Et en fait, ce que j'ai remarqué, c'est qu'ils ont ils ont les contacts, ils ont les boîtes de production derrière,
ils ont
le matériel qu'il faut. Enfin voilà, ils ont tout pour faire leur film. Ils connaissent comment ça marche pour avoir des financements. Mais le truc, c'est qu'ils s'enferment après. Ils suivent les logiques qui à la base repoussaient. Ils travaillent juste pour manger, mais à la fin. Ils sont affectés. Et donc moi j'essaye d'être prude.
Par contre tu crains pas, tu sais que dans la mesure où dès lors que tu te lances dans un film, qu'à un moment tu seras forcément confronté à des logiques de contraintes budgétaires, de production, qu'à un moment de toute façon cette pression, ou en tout cas ces contraintes, tu y sois confronté d'une manière ou d'une autre.
Évidemment, mais ça j'essaie. En fait, j'essaie de m'entourer bien. Par exemple, grâce à ce film, encore une fois, j'ai fait beaucoup de belles rencontres. Et j'ai une petite équipe à Paris. C'est pour ça que je vais retourner à Paris. Voilà.
En fait, tes cartes de visite, en fait.
Oui,
avec
voilà. C'est exactement ça. C'était le but. En fait, le but de ce film, c'était de non seulement faire une carte de visite, mais aussi de me dire, voilà, est-ce que je suis fait pour ce métier ou pas? Est-ce que j'ai quelque chose à faire ou est-ce que je fais des films nuls? Donc voilà, c'était le but, quoi. Mais oui, pour ce qui est de la pression et tout ça, j'essaie de m'entourer le plus possible de personnes qui sont bienveillantes, parce qu'il y en a, il y en a beaucoup même. Mais voilà, j'essaie de faire les bonnes rencontres et d'être moteur. J'ai pas envie de subir et voilà, parce que je vois à peu près comment les réalités économiques tout ça, mais si on regarde vraiment les réalités économiques. L'heroic fantasy, c'est un truc qui cartonne. Et pourtant, on n'en fait pas en France.
Oui.
Parce que c'est dans la tête, quoi.
Oui. Donc, voilà. Comme la science-fiction ou les films de genre, en France, ça ne marche pas tellement.
Voilà.
Après, moi, je me dis, tu sais, il y a quand même. Il faut croiser les doigts, parce qu'avec les générations de réalisateurs qui changent, aujourd'hui, quand même.
C'est les producteurs, quand même. C'est plus que les réalisateurs, à mon avis, qui font un frein. Mais...
Oui, tu as raison. Mais tu as quand même des jeunes générations
les
de producteurs,
aussi,
de diffuseurs. Enfin, à un moment, ces gens-là.
Les financiers, quoi.
Voilà, vont être des gens qui auront été baignés dans leur enfance, adolescence, etc. Comme dans des codes
ça.
Communs. Tu parles de Warhammer, etc. À un moment, tu vas te retrouver avec des gens qui auront joué à Warhammer, qui, même s'ils ont un moment 40-45 balais, se diront tiens, j'ai envie de porter le truc parce que ça.
Oui, je le sens très bien, même en allant dans les festivals et tout ça, qui sont pas, encore une fois, les deux autres festivals avant, c'était pas des festivals horrifiques ou de genre. Et on sent qu'il y a, une génération voilà, qui pousse comme ça et qui s'inspire vraiment du cinéma américain. Après, nous, le but n'est pas de faire du copier-coller du cinéma américain, le but est de prendre le mieux de ce qui se fait, parce qu'il n'y a, pas à tortiller, ils font des choses qui sont bonnes. Quoi. Et donc nous, prendre ça, mais le mettre à notre
L'adapter
source,
à notre...
Voilà. pourquoi pas faire de l'histoire avec, enfin l'histoire, on a beaucoup de, on a vraiment de la matière, par exemple en France, quoi, parce que j'aime beaucoup les films historiques, par exemple, et il y a tellement de choses à dire.
C'est vrai qu'on a une mythologie de dingue, diverse, et voilà, qui est pas tant exploitée que ça.
Finalement. Et on pourrait faire des films de fou avec ça.
Vraiment. J'ai senti alors peut-être que ça, le Pacte des Loups un petit peu, est-ce que c'est le genre d'influence qui te parle ou pas du tout? Pas vraiment.
C'est pas ce qui m'a, en tout cas pour ce film, c'est pas ce qui m'a influencé. D'accord. Après le Pacte des Loups, oui, c'est un exemple. Ouais.
Pourquoi carrément. Je pensais à ça, je veux dire pourquoi, parce qu'il y a dans la scène de combat, à un moment, dans la cinquième scène de combat, il y a des scènes à un moment presque d'arts martiaux en fait, où limite le contaminé se bat avec des techniques d'arts martiaux, oui. et du coup ça m'a emmené sur le Pacte des Loups en fait.
Ah oui, d'accord.
Voilà pourquoi.
Pour les techniques de combat, il y avait trois techniques de combat en fait. Donc il y avait le bourrin avec la grosse massue, donc ça bon bah, c'est le bourrin quoi. Ensuite il y avait plus le pas le pistoliero, mais comment on pourrait dire ça, plus capé d'épée, oui. En effet le mutant, il est un peu plus ninja, mais parce que la personne justement qui joue ça, c'est un très bon acteur, voilà, c'est surtout un acteur. Et il s'appelle Alex Martin, et c'est quelqu'un qui monte à fond, qui a joué dans le Transporteur, je crois. Et là, il commence à se faire vraiment une bonne carrière aux États-Unis. Et il a joué aussi dans Dorouillet d'Os.
Pas lui qui a dirigé les combats de Spectre, notamment ? Non,
peut-être,
je confonds.
Je sais pas.
Spectre, le James Bond ?
Oui.
Ah, c'est possible.
Je crois même parce qu'Alex Martin, oui, si c'est.
C'est possible, parce que je crois qu'il était sur le tournage. Ouais.
Puisque tu me parles, puisque la personne, donc, du coup, si c'est lui, ouais. qui parlait, donc qui chorégraphiait donc, les scènes de combat de Spectre, expliquait qu'il avait supervisé, a priori, les scènes de combat de Rouillé d'Os.
C'est lui alors.
Voilà, c'est pour ça que
j'en suis sûr. C'est lui.
D'accord.
C'est lui qui a chorégraphié, par exemple, les combats avec ses amis de la bataille.
D'accord.
Donc, je m'étais vraiment entouré de personnes les mieux. Les mieux possibles que je pouvais trouver avec mes petits moyens, mes petits bras et mon petit c'est réseau.
Impressionnant.
Voilà. En tout cas, surveille bien ta boîte mail après la diffusion de l'entrepôt, parce que c'est forcément ça va exploser.
Merci.
Freddy, ta phrase type.
Hey, tu sais qu'ici on fait et on défait les carrières.
Et pour conclure, est-ce que tu as d'ores et déjà un projet
à venir? Ouais. Alors là, deux choses. Là, je suis sur un documentaire qui va traiter du son en trois dimensions. Parce que c'est une technologie qui est en train de sortir, voilà. Donc là, c'était plus pour dépanner au début, et maintenant j'ai pris totalement le sujet. Donc voilà, donc pour essayer de vulgariser ce genre de technique et tout ça, c'est tout à fait dans mes démarches. Et surtout là, je trépigne d'impatience de pouvoir faire mon prochain court métrage qui sera sur les trois derniers jours de Robespierre.
Ah ouais,
d'accord. Wow. Voilà. Ah, tu parlais t'aimais bien l'histoire et tout ça. On voit.
Tu donnes quand même, des.
Ah bah je sais. Ouais.
Mais c'est bien d'être ambitieux.
Visuellement, carrément.
Visuellement, ça sera un peu à la 300 quoi en plus.
D'accord.
Ambition.
Non mais t'as raison. Oui mais
ça sera entre 2 heures moins le quart avant Jésus-Christ.
Voilà. Et ça sera stylisé à fond tout ça.
D'accord.
Donc et avant oui voilà en fait si je très vite fait si je peux parler sur
bien sûr vas-y
c'est que
nous on finit à 5h et puis tu sais l'heure c'est l'heure un peu.
Zack Snyder t'aimes bien alors
pas spécialement
enfin,
mais
il a un œil graphiquement magnifique quand même
il défonce quoi oui c'est sûr mais après j'ai pas forcément de réalisateurs
non mais par contre t'as en tout cas des attirances et des références qui vont te permettre toi en tout cas d'avoir un œil par rapport à ta réalisation.
C'est ça. Et je m'inspire aussi beaucoup de grands tableaux qui ont été faits justement sur ces derniers événements où ils prennent des poses, les mecs et tout. Enfin,
c'est magnifique.
Voilà. Donc, j'essaye de m'inspirer de beaucoup de choses comme ça. Ouais.
Et tu voulais parler d'autres?
Et oui, voilà. Donc, en fait, là, le concept pour ce court-métrage, c'est de faire vivre au public tout le processus de création. Je suis pas sûr de faire ce film parce que là cette fois j'aimerais ne pas le faire en autoproduction si possible parce que 4 ans voire plus peut-être pour celui-là c'est lourd. Donc je vais essayer d'avoir une boîte de production, on verra. Mais donc en fait l'idée est de montrer toute l'enquête que je vais faire par rapport à ces trois derniers jours-là. Donc enquête historique avec des interviews de d'historiens tout ça. Et voilà. Et en fait, et de faire des épisodes comme ça sur Internet, d'accord. où les gens pourront suivre très régulièrement ce qui se passe, comment ça se passe, et
monte.
Apprendre en plus de l'histoire, parce que c'est ça le but en fait, c'est d'apprendre qui était Robespierre, parce qu'il y a beaucoup de mythologie et de légendes autour de ce personnage là et donc de peut-être éclaircir un peu tout ça et voilà.
Et donc plus rien de fantastique là pour le coup sur ce prochain projet.
Si, parce qu'on sera dans l'imaginaire ces personnages là aussi, parce qu'ils avaient en fait les conventionnels, donc les députés de l'époque avaient toute une imagerie qui s'inspire de la Grèce antique et de Rome et tout ça, et donc ils sont très dans la
représentation,
la représentation un peu
antique,
divine et tout ça, voilà, des divinités et tout ça. Donc on verra un peu l'imaginaire de tout ça, donc on verra la justice qui va, enfin bon,
de l'aspect visuel un peu à la 300, c'est ça,
voilà,
c'est
exactement, hein. Ouais. Beaucoup des gros ralentis, certaines scènes
avec beaucoup de traitements post-prod,
c'est ma question, il y aura sûrement, oui, mais voilà, c'est ma question principale, c'est est-ce que je fais des décors et je rajoute de la post-prod dessus, ou est-ce que je fais que de la post-prod?
D'accord.
J'aimerais, enfin, je sais pas pour l'instant.
C'est encore en réflexion.
On verra. Et
rien,
des moyens, des budgets.
Rien sur les légendes bretonnes.
Fait pas encore assez longtemps qu'il est en Bretagne, ouais. Peut-être.
j'y étais que 3-4 ans, je crois, en Bretagne.
Ah, quand même.
Ah, sinon, oui. Si tu veux faire un truc sur les légendes
bretonnes. Sur du déclin, peut-être.
sur le déclin, c'est Marius, c'est ça, non?
Les gens du voyage.
Tu sors ton petit hérisson, là.
Sur du Guéclin peut-être un jour. On verra.
Oui, donc tu as quand même quelques projets dans les tiroirs.
Ah oui, bien sûr.
Et si on veut te retrouver quelque part sur internet, sur les réseaux sociaux ou ailleurs,
la bande annonce
est disponible
sur YouTube.
D'accord.
Voilà. Donc vous tapez le saut de la corruption sur YouTube.
Oui, et tu as les liens Facebook, etc.
Si on souhaite te suivre, c'est sur Facebook.
Et pour voir le film également, non.
Ah, pour l'instant, non.
Pour l'instant, il est qu'en festival.
Toujours le même problème.
C'est ça. Ben, c'est ça qu'il faudrait. Tiens, si je peux lancer un petit message au festival. c'est dommage le fait de. Je comprends le fait de vouloir avoir un peu
l'exclusivité
et tout. Mais le truc, c'est que si on veut attirer beaucoup plus de monde dans les festivals et surtout un public plus large, je pense que c'est mieux d'avoir des films qui ont déjà marché sur Internet, ou même de prendre des gens qui viennent d'Internet pour qu'ils présentent leurs films. Comme ça amène le public, parce qu'ils vont voir principalement ces gens-là, et en plus, ça leur fait
découvrir d'autres choses.
Voilà.
Surtout que découvrir ce court-métrage-là, par exemple, entre le découvrir sur l'ordi, parce que moi je l'ai vu sur un ordi avec la sélection, et le découvrir
sur grand écran.
Franchement, c'était sympa comme
on
d'avoir
a pu
ça
le voir. Aussi tout à l'heure pour l'automne de Zao, c'est pareil, on se dit que sur un grand écran, ça doit quand même rendre autre chose.
Est-ce qu'il y a eu un teaser de
fait? La bande-annonce.
Oui, la bande-annonce est sur YouTube.
Ça veut dire la même chose quasiment
presque. Ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, sur la page Facebook du festival, de la convention, on annonce effectivement les voix qui font les doublages et tout,
mais il est
clair qu'en mettant les teasers, ça permet au public aussi de ne pas avoir ce que moi au départ je pense, parce que moi je suis une frileuse fantastique, pour moi je mélange, je fais un peu l'amalgame en horreur, fantastique,
ce qu'on disait tout à l'heure, comme Starlet, hein.
Et voilà, donc moi si c'est pour voir du zombie, je suis pas plus fan que ça et tout ça. Et en fait, je me rends compte depuis le début de l'après-midi avec les différents réalisateurs qu'on a reçus autour de la table que je me trompe totalement et que il y a vraiment à voir, quoi. Ouais. Et clairement, le fait de mettre les teasers sur la page Facebook, ça peut être suggéré à Dieu.
Alex, hein, on en parlera à Dieu.
On en parlera à Dieu. Alex,
mais en tout cas, merci à toi d'être venu te prêter au jeu.
Merci beaucoup.
Ça a donné envie de regarder, de voir ton film et de te suivre, en tout cas.
Merci pour ta sympathie, ta bonne humeur. Sur l'anthropode, puis de nous avoir supporté. Et donc, tu as le droit de manger tes viennoiseries. Voilà.
Oui. Et on peut en proposer aussi.
Bien sûr, mais pas des rares.
Et puis, on se revoit ce soir si tu es présent à la salle.
Ah oui, je serai là, bien sûr.
Donc on se reverra à ce moment-là.
Évidemment. Suivez-la sur la page Facebook, c'est le mieux.
Ouais. Ouais.
Très bien,
on
remettra
le lien
aussi.
Sur notre.
Okay. Merci beaucoup, Tom. À bientôt.
Merci.
Au revoir.
Merci.
Et donc, on ne va pas abandonner nos habitudes et on va passer à notre minute chrono, nos coups de cœur et nos coups de gueule. Eh bien, Ludo, je te propose D'y aller. Es-tu prêt? C'est parti.
Oui, alors... Pas le lancer. D'accord. Vas-y. J'y vais comme ça.
Vas-y, comme ça.
Oui, alors, mon coup de cœur n'est pas très, très fantastique aujourd'hui.
Il a l'air bien.
Il a l'air mal. Non, en fait, voilà, j'ai redécouvert un classique du cinoche américain des années 50 qui s'appelle Géant, de George Stevens, un film qui est sorti en 56. Un film, le dernier film de James Dean, avec James Dean, pardon, avec Elizabeth Taylor et Rock Hudson, et d'ailleurs également le premier rôle de l'un des premiers grands rôles de Dennis Hopper dans ce film-là, et un superbe film qui dure quand même 3h25, hein,
ah ouais.
Et oui, qui est en fait qui raconte l'histoire d'une famille au Texas, et ça se situe donc entre 1915 à peu près et puis les années 50-60. Et qui raconte comment en fait les grands ranchs sont remplacés petit à petit par les grandes fortunes du pétrole, et on suit donc des histoires d'amour impossibles, des carrières, des destins brisés. C'est magnifique, je trouve ça superbe, et bref,
voilà.
On aurait dit le pitch de Dallas.
Eh bien justement,
mais très bien.
Sais-tu que Jean était un précurseur de Dallas? Ça y est, je l'ai dit.
Voilà, et eh ben écoute, merci Ludo. Marius, tiens, ah bah oui. Monsieur Grande Gamelle.
Monsieur Gargamel.
Ouba.
Alors, c'est un petit. C'est un truc qui vient de sortir, enfin, je pense, parce que je viens de le trouver. Mais c'est très funky, bien. Jazzy. Moi, ça me fout la patate quand je passe l'aspirateur en musette chez moi.
Dans la cabane, dans la caravane.
Dans la caravane. Et non, ça se laisse écouter, c'est vachement.
Mais du ça se laisse écouter.
Ça se laisse écouter.
C'est écoute ça. Écoute ça. Ouais. Et là, t'as envie d'actionner les bras. Et... Whiz. Un petit retour en arrière, et c'est 2015,
c'est
j'aime
disco,
bien.
C'est disco.
Ah ouais, c'est de là, c'est maintenant.
Ah ouais.
C'est bien maintenant, fait, je trouve.
77 ton truc.
C'est en ce moment, c'est là, c'est super.
C'est en
bien
ce moment
fait
sur Spotify, donc ça vient de sortir.
Whiz. C'est super bon. Enfin, moi j'adore, et après elle chante.
Ah ouais.
Mais là t'es à la fin de ta minute.
Non, t'as encore 15 secondes. Tu
15 secondes avant, on va l'entendre. Mais alors ça reste un morceau non, qui est vachement sympa. Donc tout l'album, et l'album est carrément hétéroclite, ça parle en tous
comment
les sens.
Comment ça s'appelle?
C'est Monica.
Secret in the Dark.
Secret in the Dark, c'est le nom de l'album et de ce morceau. Et ça part dans tous les sens.
Elle est pas trop anamorphosée.
À Didouille.
À toi d'ailleurs.
Oui.
Mais tiens, t'as de la gueule, vas-y.
Alors on ferme les yeux les garçons, on se laisse porter par cette douce musique.
Oh,
dernier
parle...
album de Dave Gahan, avec une voix reconnaissable entre mille, qui donc a sorti son album avec Soul Savers, dont j'avais déjà parlé sur un album, sur un entrepôt précédent. Et là, c'est Dave Gahan qui sort donc son album qui s'appelle Angels and Ghosts. Et franchement, c'est juste une tuerie, donc un peu blues, un peu poétique, un peu tout ça, enfin, à la fois. Ça fout la chair de poule, et il a toujours une aussi belle voix. Donc, on est loin du Depeche Mode qu'on connaît. Hein. On n'est pas du tout dans côté industriel. Et franchement, il a une voix qui se prête vraiment à ce style. Ça lui va parfaitement. C'est magnifique.
Merci Didouille. Pile dans la minute.
T'en parles mieux que moi de tes... T'avais préparé quelque chose, non?
Ah, t'as vu, elle avait un.
Sur le coup, j'ai.
Attends, elle a rien devant elle. Et moi, je m'embarque dans des trucs, des machins, je lève les bras.
Toi, t'es trop. Je lève les bras. Je crois que c'est ça ton problème, tu lèves trop les bras.
Je lève les bras. Et tu t'asphyxies, du coup.
Ah, regarde, tu peux parler.
Monsieur Christophe, tiens. Toi, tu as quelque chose? Je crois que c'est encore de la musique, dis donc. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu des coups de cœur musicaux.
Moi, je vous présente le premier album de Pain Noir. Très beau projet artistique qui a le charme artisanal du fait main, réalisé à la maison et en famille.
Tu m'avais dit à 30 secondes.
De son vrai nom, François-Régis Croisier sort un album sobre et magnifique à des années-lumière du monde sidérurgique. Se présentant comme une rêverie au coin du feu, où des chansons en français, j'insiste, en français, aux ornements poétiques, laissent chacun divaguer dans une histoire qui s'ouvre à l'aube, premier titre de l'album, et se referme avec le soir, dernier titre de l'album. J'en dirai pas plus, j'adore cet album.
Il est bien.
Si c'est fragile,
un petit côté trio.
Non, un côté Louis Chédid.
Moi je dirais un petit côté Vassiliu.
Ah remarque, ouais. Un peu touchant en fait.
Louis Chédid, ouais, un petit peu.
Écoutez le refrain. Écoutez le refrain.
Priez nos frères, ça va.
Priez nos frères, nique ta race.
Et voilà.
On n'aura pas le refrain.
On n'aura pas le refrain.
Mais vous... Dommage.
Vous aurez tout le loisir de l'écouter sur la playlist Spotify.
Louis Chédid, ouais.
À mon tour de faire un petit coup de cœur pendant que Ludo s'essaye le métier de bruiteur de films d'horreur.
Il aime bien mon manche.
Le thriller.
Mon aime bien ton manche. Il aime bien mon porte-micro.
À mon tour. Donc, moi, je voulais vous parler de Alexandre Astier, donc pour son spectacle L'Exoconférence. Donc, son dernier spectacle. Comme j'ai pas pu aller le voir sur scène, je me le suis offert en Blu-ray. Et sans grande surprise, j'ai beaucoup aimé. Hein. Ce spectacle traite d'astrophysique sur le même ton que son précédent concernant Jean-Sébastien Bach, c'est-à-dire pas complètement dans de la folie. C'est à la fois instructif, incitant à la curiosité, drôle, bien écrit, bien joué et mis en scène. Enfin, pour moi, il y a que du bon dans ce spectacle. Alors ceux qui connaissent Alexandre Astier que par Kaamelott peuvent être un peu déconcertés parce qu'effectivement, c'est pas tout à fait dans le même registre. Hein, c'est pas des blagues au kilomètre, mais c'est vraiment intéressant. Et puis je voulais en profiter pour faire un clin d'œil aussi à mon coup de cœur de l'épisode 14, qui est Bruce Benhamran, qui est le créateur de la chaîne Y Penser sur la vulgarisation scientifique, qui a fait la première partie d'Alexandre Astier dans la tournée des Zéniths en fait, et qui sort actuellement un livre qui s'appelle Prenez le temps d'y penser, qui reprend un peu de la vulgarisation scientifique comme il le fait sur sa chaîne YouTube. Et je vous incite vraiment à y aller parce que c'est fait avec beaucoup d'humour et vraiment fait pour tout le monde et dans le partage. Voilà, à Freddy qui nous présente son coup de cœur. Freddy, est-ce de la musique? Est-ce quelque chose à présenter?
C'est rien de tout ça, et je m'excuse par avance parce que c'est pas forcément très joyeux.
Oui.
Alors, je te laisse le temps d'en parler, c'est parti.
Alors, ces derniers jours, on a lu beaucoup de témoignages, des portraits des héros ordinaires, des histoires aussi incroyables que bouleversantes. Je parle bien sûr des événements récents qui nous ont tous touchés, parfois de près. L'histoire que je vais vous raconter, vous ne l'avez pas lue dans le journal, pas vue à la télé, et pour cause. Lorsque je rentre de soirée ce vendredi 13 novembre, je me branche machinalement sur Twitter, mon fil d'actu privilégié. J'apprends les nouvelles, j'embraye avec une chaîne d'infos et je prends quelques nouvelles d'amis parisiens proches. Je pense à Rémi, avec qui j'ai partagé quelques moments forts, à Rouen, à Paris ou à Budapest, il y a quelques années. Rémi répond instantanément à mon message. Il tremble, il a envie de vomir. Ce vendredi 13 novembre, Rémi se trouvait devant le Bataclan pour revendre sa place de concert pour les Eagles of Death Metal. Son ami et lui étaient fatigués, c'est pour ça qu'il a revendu. Depuis, Rémi est traversé par différents sentiments, le soulagement bien sûr, mais la culpabilité surtout. Aujourd'hui, je pense à ceux qui ne sont plus là, mais aussi à ceux qui restent et pour qui c'est pas facile. Un coup de cœur pour eux.
Bien. Merci Freddy. Ah bon, bien, et puis on partage ce coup de cœur pour toi, enfin avec toi, pardon. C'est pas toujours évident. Enfin,
je crois que
il
n'y
a pas de mots. Il n'y a pas de mots. Ça sert à rien d'épiloguer là-dessus. Et merci pour ce témoignage. Bon, on va pas finir sur ces mots tristes, même si ça fait partie de l'actualité. Pour rester sur le festival, quelques-uns vont nous abandonner pour demain.
Oui. On donc, va se barrer.
Marius,
se barrer. On se
tue. Marius, Christophe et Freddy ne seront pas là. Didouille, finalement, a décidé de rester. Comme quoi, elle a été, séduite par cette première journée. Donc, c'est plutôt un bon signe.
Enfin, c'est pas pour toi.
En même temps.
Et on gagne au change puisque Arnaud revient demain. Donc, finalement, on en perd 3 pour récupérer Arnaud. Non, sérieusement, demain, on aura Arnaud. Donc, ça nous permettra de voir des choses qu'on n'a pas forcément eu le temps de voir aujourd'hui. Peut-être si on arrive à bien nous arranger d'avoir certains comédiens de doublage des séries qu'on a évoquées tout à l'heure, donc Game of Thrones mais qui ne sont pas, faut pas les réduire uniquement à ça, hein, faut quand même le rappeler, certains sont d'abord des comédiens et sont des voix aussi d'autres personnes, Helena Bonham Carter entre autres, enfin on a plein de gens et il faut on a certainement plein de choses à évoquer avec eux si on a la chance de les avoir à ce micro.
J'espère que le grand-père Simpson sera encore là.
Il pourra être là. Sinon je le remplace au pied levé également. Vous pouvez compter sur moi.
Tu fais doublure en fait.
Ouais. C'est ça. Fait doublure, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Et en tout cas, nous on a passé une bonne après-midi, même une bonne journée parce qu'on est arrivé pour certains ce matin.
Fait dessus. Et la soirée ne fait que commencer, puisque nous allons aller voir tous ces jolis films. Enfin, j'espère.
Exactement. Donc, 6 films à voir ce soir, plus Aliens. Enfin, bon, une bonne soirée en perspective. Et puis, on se retrouve demain. Et puis, pour certains.
Je viendrai peut-être vous embêter demain. Je ne sais pas encore.
Tu laisses ton micro au cas où, quoi.
À l'improviste, quoi.
Allez, ok. Pas de soucis. Et puis, on fera certainement 2 épisodes, parce que ça fera peut-être long.
À demain.
Donc, à la prochaine.
Donc,
alors,
à la prochaine. Et puis, on va faire une petite conclusion pour ceux qui écouteraient juste cet épisode-là quand même, pour rappeler où vous pouvez nous retrouver.
Mais bien sûr,
tout bêtement, parce que globalement, c'est une phrase que j'ai lue l'autre jour et que j'ai partagée parce qu'elle m'a bien parlé. C'est une phrase de Pierre Journel qui dit que le salaire d'un podcasteur, c'est les échanges que ça entraîne et que ça engendre. Effectivement, c'est vrai que nous, si on fait ça, c'est d'abord pour se marrer, mais c'est aussi pour avoir des échanges. Et si vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'on dit, ou si vous avez aimé, ou si vous avez découvert des choses, n'hésitez pas à nous en faire part.
Des retours.
Des retours, voilà.
Puisque tu parles salaire, on en parlera après. Mais...
tu sais qu'on a eu notre enveloppe, nous.
Moi, j'ai eu notre enveloppe.
Tout à l'heure, j'ai mon salaire.
5 euros.
Ouais, 5 euros.
Voilà. Donc, on est sur l'entrepode.fr. Vous pouvez retrouver toutes les informations, les sites, les liens qu'on a évoqués. On est toujours aussi sur SoundCloud, iTunes, Pod Radio et les diverses applications de podcast sur tous les supports mobiles qui existent. Concernant les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Google+, même si Marius visiblement est un peu échaudé par Google+,
non,
il est
pas complètement. Non,
il n'est pas content du dernier changement de Google+ en
date. Il me plaise pas du tout.
Il peut plus faire ses photos comme il veut. Alors, il est pas
content. Non, ça chie. Au niveau des photos, c'est franchement, c'est d'une incohérence.
Donc voilà. Et puis sinon, il y a
le. De ce que je dis.
Voilà.
Voilà.
Exactement. Je sais pas écouter ce que tu as dit, mais j'ai envie de dire voilà.
Non, mais c'est
non, on s'en fout pas, Marius.
Tu disais quelque chose.
Bon, voilà.
Ça parlait. Et puis sinon, on a toujours notre Tipeee, hein, on communique un peu dessus, mais pas trop, parce que le but, c'est pas non plus de faire la manche, hein, c'est pas ça, hein, loin de là. L'idée, c'est que si ce qu'on fait, ça vous plaît, vous pouvez contribuer à aider l'association L'Entrepode, puisqu'on est une association, hein, ça tombe pas dans notre poche, hein, je voudrais faire rassurer aussi. Donc, ça soit 1, 2 ou 3 euros, ou plus comme vous voulez. Il y a une page Tipeee qui est faite pour ça, et puis ceux qui n'aiment pas Tipeee ou qui n'ont pas vraiment compris comment ça fonctionnait, il y a aussi la possibilité par PayPal de faire un don direct avec l'adresse podcast@entrepod.fr. Voilà. Et puis voilà, on espère que cet épisode vous a plu et puis on vous dit à bientôt.
Allez
à bientôt. Plus, allez, bisous.
Allez,
ciao.
Salut.
Allez, oulou.
Quesadilla.